parler, c'est déjà avancé. La nuit, la parole est libre. Un secret partagé est toujours plus facile à porter. 21h, 23h, Confidence. L'émission Sans Tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Chers amis, bienvenue sur Beurre FM. Et oui, vous avez reconnu le jingle là, de Confidence. J'espère que vous allez bien. Voilà. Bien, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée parmi nous avec Anthony qui réalise cette émission. C'est lui qui est aux commandes et qui vous reçoit bien entendu au standard. Bonsoir Anthony, comment vas-tu ?
Bonsoir Vanessa, comment ça va ?
Ben écoute, ça va, je te remercie. T'as passé une bonne journée ?
Fatigante, mais ça a été, ouais.
Fatigante, qu'est-ce que t'as fait ? T'as fait des travaux ?
Non, j'étais en cours.
Ah oui, ah mais les cours, hein.
C'est important.
Bien sûr, attends, c'est comme ça qu'on arrive dans la vie à quelque chose. Hein.
À être un bon réalisateur.
Voilà, exactement. En tous les cas, moi, j'ai pas à m'en plaindre. Hein.
Merci, c'est gentil.
Franchement, waouh, bravo.
Alors, c'est quoi le sujet de ce soir ?
Ben non, il n'y a pas de sujet. Donc c'est sujet libre, voilà, comme souvent d'ailleurs, hein. Souvent c'est sujet libre. Donc j'espère que nos amis vont se réveiller et vont remplir ce standard comme tous les soirs. Allez, on y va, il vous attend Anthony et moi je vous attends à l'antenne au 01 53 48 3000. Allez, on se réveille chers amis. Mais avant de vous donner la parole, on s'est dit tellement de choses ces derniers jours, tellement de choses. L'actualité est très chargée, nos vies ne le sont pas moins. Donc venez vider votre cœur, un cœur trop plein. Il y en a qui l'ont un peu plus chargé que d'autres. Eh bien ici c'est votre espace. Il y a de très bonnes oreilles pour vous écouter, bien sûr. Je parle pas de moi particulièrement, mais nos amis sont à l'écoute. Ils vous écoutent, voilà, tous les soirs. Et je vous promets que de très bons conseils vous seront prodigués à travers les expériences des uns et des autres. Voilà. Et sachez une chose, c'est que dans la vie, il n'y a pas de problème sans solution. Il y a toujours une solution à tout. Voilà. Ben, quand on a fini son parcours de vie, hélas, eh bien là, notre mission sur Terre se termine. Mais tant que nous sommes encore de ce monde, eh bien, profitons de ces moments importants avec les nôtres, avec ceux qui nous sont chers. Ben oui, c'est ça qui est important en vérité, parce que le reste, ma foi, hein. Allez, on oublie un petit peu le matériel, etc. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'individualisent de plus en plus. Alors, tout le monde est sur son écran, tablette. On vous crée des besoins, des envies et des besoins surtout. Souvenez-vous, il y a bien des décennies en arrière, eh bien, ma génération et celle de beaucoup, eh bien, nous n'avions pas ce besoin d'être constamment sur son téléphone. Ben non. Le besoin vient par l'envie, le besoin vient par quoi ? Ben écoutez, par ce qu'on vous propose, on vous crée des besoins, tout simplement. Et ça éloigne, ça individualise, ça isole, c'est terrible. Hein ? Plus il y a de réseaux sociaux, et plus les gens sont seuls. 01 53 48 3000. Eh bien, avant de vous donner la parole, permettez-moi d'avoir une pensée pour nos amis qui sont souffrants. Je vous souhaite un prompt rétablissement. L'Aïdjiboukoum Chfin Chalin, ainsi qu'à vous qui êtes hospitalisés. Ou seul chez vous, une pensée également aux personnes incarcérées, ainsi qu'à vos familles. Et on n'oublie pas les courageuses et les courageux du soir, vous qui travaillez de nuit. Une pensée également aux personnes qui n'ont pas de domicile fixe, aux sans-papiers, aux réfugiés, aux animaux. Une pensée à tous les terriens, sans distinction aucune, à tous les oubliés. Nous, on les oublie pas ici sur Beurre FM. C'est très important. Et solidarité les uns avec les autres. Quand vous savez qu'une voisine, un voisin, une personne âgée, eh bien, se sent seule, comme on a cessé de répéter durant les confinements, eh bien, continuez ces bonnes actions, allez toquer à leur porte, allez leur proposer quelque chose, leur demander, eh bien, si elles ont besoin d'aide. C'est très important. Vous savez, la solitude tue plus que tout. Voilà. Et puis, notre mission sur Terre, faut pas l'oublier, parce qu'il y a des gens qui ont tendance à oublier, parce qu'on s'oublie, on part dans nos délires, dans nos quotidiens qui nous tuent. Eh bien, n'oublions pas que nous avons tous besoin les uns des autres. Nous sommes tous les maillons d'une même chaîne. Il n'y a pas d'origine, ceci, couleur, etc. Non, nous sommes tous les enfants d'un seul créateur pour les croyants, comme moi je suis croyante. Eh bien, nous sommes tous les enfants d'un même Dieu, d'un univers, voilà. Et tous agglutinés sur cette petite boule qu'on appelle Terre. Voilà, donc tous frères en humanité, ne l'oublions pas. Et quand il y a un maillon, eh bien, qui s'affaiblit, tous les autres, eh bien, doivent se sentir concernés. C'est très important. On est là pour s'entraider. Ne l'oubliez pas, surtout pas. Voilà, on a... Alors, Fatima nous appelle de Stein. Bonsoir, Fatima.
Bonsoir, Vanessa.
Bonsoir. Bonsoir,
c'est la première fois que je vous appelle.
Ah bon, c'est pas vrai.
Oui, je vous écoute beaucoup, mais c'est la première fois que je vous appelle.
Ah, d'accord. Voilà, bah, écoute, ça fait plaisir. Mais c'est vrai, c'est gentil.
Ah oui, j'aime beaucoup votre façon de penser. la levée des tabous, ce qui concerne la religion. Je trouve que vous avez une très belle ouverture d'esprit.
C'est très gentil, merci.
Voilà, vraiment. Et votre ouverture d'esprit permet aussi l'ouverture d'esprit des autres.
C'est... Bah écoute, je suis très touchée en tout cas. Merci beaucoup, Fatima. Tu peux me tutoyer, Fatima. Hein.
D'accord, on se tutoie, c'est gentil. Hein. Merci, Vanessa. Ouais. Depuis le temps que je t'écoute, oui, je vais te tutoyer.
Ah, bah oui, quand même. Ça y est, maintenant, on fait partie de la même famille.
Exactement. Donc, voilà. Pour vous remercier en tout cas pour ce que vous faites, et comme je vous l'ai dit, pour votre ouverture d'esprit et la levée des tabous qui est très, très, très importante, quelle que soit la communauté, entre guillemets. Je crois que les tabous, c'est tout le monde. Hein. C'est pas une question d'ethnie ou quoi que ce soit.
Non, non, c'est partout. C'est vrai,
voilà.
Tu as raison.
Donc, c'est très, très bien de pouvoir en parler.
Oui.
Ça libère un petit peu les cœurs, j'ai envie de dire. Et ça apaise certains qui ont l'impression d'avoir provoqué la chose, alors que pas du tout.
C'est vrai.
Voilà.
Et ça encourage aussi. Ça encourage à parler,
à
s'exprimer.
C'est très, très, très important.
Ah oui, parce que beaucoup pensent qu'ils sont seuls, qu'ils sont uniques dans leur épreuve. Et que le monde entier, eh bien, ne connaît pas cette douleur. Mais non, on passe tous par des épreuves. Tous.
Tout à fait. Tout à fait. Donc, et comme ça, on enlève cette espèce de culpabilité qu'on peut avoir en soi.
Mais oui, la culpabilité.
Alors qu'on n'est pas fautif de ce qui se passe.
Non. Et d'ailleurs, voilà. Et d'ailleurs, pour disons mettre un petit point de comment dire, un petit grain de sable dans la machine, eh bien ceux qui devraient ou celles qui devraient se sentir coupables, eh bien ces personnes-là, comme par hasard. Eh bien, non, elles ne se sentent pas coupables, elles se sentent très bien, voilà. Et les autres, c'est elles qui portent le fardeau.
Se sentent mal, voilà, exactement.
Mais oui, ça c'est une affaire de conscience, en fait.
Voilà, et puis maintenant, bon, les générations se suivent et c'est bien qu'il y ait une évolution. Les gens sont plus ouverts, ils parlent un peu plus, ils ont moins peur. Le tabou, ce tabou, ce terme un petit peu que je n'aime pas en fait, parce que ce tabou justement, c'est lui qui bloque les gens.
Mais oui,
il est vilain ce mot.
C'est horrible, je déteste.
Tabou,
franchement, je le supprimerais, vraiment, je le gomme moi
voilà,
du vocabulaire. Mais oui, parce que tabou, langue de bois, c'est ça brise des vies, hein. C'est waouh.
Oui. C'est lui qui, en fait, c'est justement ce terme qui crée le blocage et qui empêche de parler.
C'est ça. C'est ça.
Voilà.
Ben oui. Et c'est propre, disons, à toutes les communautés terriennes.
Hein. Oui, c'est pour ça que je disais que ça n'a rien à voir avec que ça soit arabe, français, africain. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire, Vanessa ? Donc, même dans la communauté française, voilà, il y a ces sujets.
Mais oui, voilà. Mais partout.
Ça partout. Existe partout.
Chacun les siens culturellement parlant.
Mais
on a tous nos tabous. Alors, le plus compliqué, le plus difficile, c'est d'oser vraiment en parler et les briser. Ouais. D'ailleurs, ils sont là pour être, fracassés, les tabous. Et donc, quand on le fait, c'est vrai que ça déplaît à beaucoup, bien entendu, parce qu'ils se sentent touchés personnellement, alors que non. On brise les tabous. Moi, je le fais régulièrement dans cette émission.
Oui, tout à fait.
Pour libérer les cœurs, les esprits, libérer les gens. Parce que il faut avancer avec son époque et son temps, c'est important, tout en respectant bien entendu les gens, les uns et les autres. Aujourd'hui, on devient de plus en plus intolérant. C'est une société intolérante, mais à tout le monde, hein. Parce que violente, quand on écoute
individualiste, parce que c'est vrai que moi je me souviens quand j'étais petite, quand j'étais en Algérie, on était vraiment les uns avec les autres. Il n'y avait pas. Aujourd'hui, non. Tout le monde rentre chez soi et se referme.
Oui. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens...
On était, je me souviens, quand j'étais petite, voilà, cousin, cousine, on était tous les uns avec les autres, les voisins. Il y avait un côté, on était, c'est un petit quartier, genre bidonville, on va dire, parce que c'était plus une sorte de bidonville dans lequel on était. Mais on s'aimait les uns les autres.
Mais les gens étaient heureux, tu vois.
Oui, tout à fait. Et moi, je me souviens, mon grand-père, il ne fermait pas la porte à clé. Ça m'a beaucoup.
Avant, on fermait
quand
pas.
On y retournait, quand j'y suis retournée, beaucoup, c'est-à-dire quelques années plus tard, quand j'étais plus adolescente, mon grand-père fermait la porte.
Ah oui, maintenant on ferme, absolument.
Voilà. Et je me suis dit, quelque chose a changé. Il y a un truc qui a.
Beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses. On s'individualise. Et c'est la faute aussi un peu à cette technologie qui est en train de nous happer.
Il y a aussi la confiance qui est partie.
Et oui, avant, tu parlais d'avant. Avant, eh bien, on savait ce que c'était la valeur des, par exemple, des grands-parents. Des grands-parents.
Tout à fait.
Alors, les week-ends, les soirs, etc., les vacances, on passait du temps avec ses grands-parents. On écoutait les légendes. Écoutait les messages qui nous... qui nous transmettaient. Mais aujourd'hui, les enfants de cette époque, pour beaucoup, ne connaissent pas leurs grands-parents.
Ouais.
Et ils se désintéressent complètement parce que ils préfèrent échanger sur leurs tablettes, sur leurs écrans, avec des gens parfois qu'ils ne rencontreront jamais. Et chacun y va de sa vie virtuelle, j'ai envie de dire, parce que c'est pas la vraie vie. Ils s'inventent des vies. Ils s'inventent des vies. Et on le voit, donc ça pose, ça parle. Aujourd'hui, il y a des avatars. Tu as vu, il y a des avatars maintenant.
Oui, tout à fait.
Les gens, on leur a inventé un autre besoin encore qui est horrible. C'est-à-dire, on te met des filtres sur les téléphones parce que tu mérites mieux d'être mieux que ce que tu es.
Ouais.
Tu ne dois pas t'aimer. On apprend aux gens à ne pas aimer ce qu'ils sont.
Voir leur vie comme une vie malheureuse.
Les a créés. Ils se mettent des filtres. Ils se mettent des avatars. Moi, une fois, je l'ai dit à l'antenne. J'ai dit, vous allez voir dans, je ne sais pas quand. Moi, je sais que je ne serai plus de ce monde. Dans, je ne sais pas, 50 ans ou un siècle. Eh bien, tu sais ce qui va se passer? Les gens, ils vont rester chez eux. Ils ne vont pas sortir. Et ils vont avoir un écran. Une espèce de truc dans les oreilles ou je sais pas quoi. Il y aura même plus d'écran parce qu'aujourd'hui avec une espèce de lunette là, ils sont déjà plongés dans le virtuel, donc ils vivent avec des personnages irréels et ils sont eux-mêmes, ils deviennent un de ces personnages et ils vont se marier avec des personnages irréels, ils vont vivre avec des personnages irréels, donc plus besoin de famille, tout va éclater. C'est terrible.
Mais en fait, c'est une manière aussi de ne plus affronter la réalité. C'est ça qui est terrible. Parce qu'on n'affronte plus, en fait, dès qu'on est dans le virtuel. Ça veut dire qu'on ne veut pas affronter la réalité. On ne veut pas voir la réalité.
Mais c'est ça.
Donc on se crée un monde virtuel.
Oui.
C'est terrible.
Alors, c'est ça. Le problème, c'est que comme on nous a créé ce besoin. On a tout le temps le téléphone. Le téléphone, il est greffé à l'oreille. Le téléphone, c'est une extension de nous. On peut pas.
Exactement.
Moi, si j'oublie mon téléphone chez moi, c'est ma vie que j'ai oubliée. C'est dingue. L'autre jour, je l'ai oublié. Je suis venue à la radio. Oh, j'étais en panique. Après, je me suis dit, mais t'es complètement tarée, ma pauvre fille. Je te jure, je me suis traitée de folle. Je me suis dit, attends, mais c'est, il y a des années en arrière, t'avais pas de téléphone, tu vivais très bien. Aujourd'hui, non, on est en panique. Mon téléphone.
C'est devenu la panique. Une nécessité.
Ah oui. On nous crée des besoins, t'imagines? C'est fou. Nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, ils avaient pas de réfrigérateur.
Ouais.
Donc ils se débrouillaient très bien, ils avaient un garde-manger, ils faisaient sécher la viande, on appelait ça le khler. Moi j'adore ça. J'adore le khler. Donc ils faisaient sécher la viande. Il y en a qui appellent ça le khler, d'autres ils appellent ça je sais pas quoi. Alors donc et de temps en temps ils prenaient un petit beau machin et beau et tout. Légumes séchés aussi, les légumes. Ils faisaient sécher les tomates, ils s'arrangeaient toujours, alhamdoulillah. Aujourd'hui, si le congélateur il tombe ou le frigo il tombe en panne,
c'est la misère.
C'est la fin du monde. Et tu te rends... Alors là, il y a des divorces. des divorces à cause du frigo qui tombe en panne. Mais ça hablo. Ne pars pas, je te reprends. Juste après Fatima, on a une petite pause et Jean-François aussi, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Sans tabou, 01 53 48 3000. Alors, on est avec Fatima qui nous appelle de Stein.
Oui, je suis là.
Oui, alors je te laisse continuer, Fatima.
Merci. Je vais pas monopoliser l'antenne, Vanessa. En tout cas, je vais juste te remercier infiniment pour ton intelligence, pour ton ouverture d'esprit, pour le message que tu transmets sur différents sujets, notamment la religion, parce que je trouvais que c'était important. Moi, je suis musulmane, je suis pratiquante,
oui.
Mais j'aime beaucoup ton ouverture d'esprit, cette façon que tu as d'inciter les gens, justement, à voir au-delà de ce qu'on nous apprend.
Mais oui.
D'accord.
Mais oui.
Donc, je trouve ça bien d'inciter les gens à réfléchir par eux-mêmes.
Voilà,
à ne pas se laisser guider par, j'ai envie de dire, par des aveugles, si je puis dire.
Bien sûr.
Voilà.
Écoute, tu m'as bien cernée et je suis très, très heureuse en tout cas.
Non, je t'aime beaucoup, Vanessa. Je crois que je ne suis pas toute
seule.
Voilà, et moi j'aime les gens comme toi qui aident les autres comme ça à avancer, à réfléchir par eux-mêmes, parce que c'est très important de ne pas se laisser influencer, d'aller chercher l'information là où elle est. Et de pas juste écouter, on vous dit ceci, on vous dit cela, même sur la religion, je trouve que ça c'est important. De pas seulement parler de guide ou ce que je veux dire.
Voilà,
moi je trouve que c'est très important que tu incites les gens à aller chercher les informations par eux-mêmes. Comme tu disais avec, l'allégorie de la caverne que je trouvais très important aussi, c'est-à-dire à aller vers la lumière, à être guidé par la lumière, ça c'est très important. Aller rechercher cette lumière.
Mais oui, mais je pense, en tant que croyante comme toi, je pense que Allah subhanahu, Dieu en tout cas, c'est ce qu'il attend de nous. C'est pour ça qu'il nous a doté de milliards de neurones.
Tout à fait.
S'il voulait que ce soit les autres qui pensent pour nous, eh bien, il ne nous aurait pas doté de milliards de neurones.
Et nous serions des larves.
Voilà. Eh oui. Donc il nous a donné tout ça pour qu'on réfléchisse par soi-même. Alors,
mais c'est important d'inciter les gens à réfléchir. Et je trouve ça bien ce que tu fais.
Mais écoute,
voilà, à dire aux gens, réfléchissez par vous-même.
Mais je ne cesserai de répéter.
Vous n'êtes pas influencé. Regardez chercher la lumière.
Exactement. Merci.
Voilà, Vanessa, c'est un énorme bisou.
Moi aussi.
Merci pour tout ce que tu fais.
C'est gentil.
Voilà, merci pour.
Promets-moi
pour
une chose, tu reviens.
Oui.
Tu reviens.
Voilà, avec grand plaisir.
Reviens pour
si
des débats.
Si j'ai quelque chose à dire, je viens.
Mais non, mais il y a toujours des choses à dire. Reviens pour des débats, reviens pour rebondir. Ok.
Merci beaucoup. Tu as un grand cœur et continue comme ça.
C'est très gentil. Merci Fatima, je t'embrasse très très
bisous,
fort.
Vanessa, bisous Vanessa, merci infiniment.
Merci, à bientôt ma chérie, au revoir. Je suis très touchée, franchement je suis émue là. Ah j'ai bu de salive, je vais boire de l'eau là. Vous voyez je suis comme ça. Hein. Mais tellement, tellement de belles choses, magnifiques vraiment. J'ai l'impression qu'elle me connaît comme ma mère. 01 53 48 3000. Alors on a Jean-François qui nous appelle de... Je sais pas d'où nous appelle. Tu nous appelles d'où, Jean-François ?
Je t'appelle de Franconville.
De Franconville ?
Bonjour, Vanessa. Oui, bonjour. Ben, je te téléphone de temps en temps.
Eh bien, écoute, bienvenue à toi. Ça me fait plaisir de t'accueillir.
Est-ce que tu me situes ?
T'es pas Jean-François ?
Eh bien, si tu veux Jean-François...
T'es Richard !
Il allonge de ton père et de ta mère.
Mais tu sais que j'ai l'oreille. Quand on fait de la radio, on a l'oreille. Alors, donc, c'est le petit don qu'on a en plus. T'es Richard.
Alors, donc...
T'es mon Richard à moi. Comment vas-tu ?
Bon, ben, je suis pas Richard, je suis Jean-Pierre, mais enfin, c'est pas Jean-François.
T'es pas Richard ?
Non, c'est Jean-François.
Alors, si t'es pas mon Richard, je peux pas te prendre.
Alors, Jean-François, si tu veux, pour te situer...
C'est incroyable, il a la même voix qu'un auditeur qui s'appelle Richard, mais il a le même accent, il parle comme toi.
Écoute-moi, c'est un trophion de 1954.
Ah, tu avais déjà appelé, on avait parlé de la guerre d'Algérie.
Je t'ai dit que j'avais l'ange de ton père et de ta mère.
Oui, et que toi, peut-être que tu avais rencontré mon père à l'époque, mais tu étais de l'autre côté.
Je sais pas. Si
de l'autre côté.
Alors, ce que j'aurais
souhaité, la barrière, comme on dit.
Hier soir, t'avais une discussion avec un gars, là, qu'on entend assez souvent, que j'apprécie beaucoup. Et j'aurais souhaité discuter avec lui.
C'était qui ?
Ben, tu sais, celui que tu aimes bien et puis qui t'aime bien.
Ah, oh, dis donc, je l'aime bien, mais alors c'est de l'amour, comment dire, de l'amour rage.
Oui, oui, non, mais je, on se comprend, si tu veux.
Ah, oui.
C'est
Azoul.
Radiophonique.
Azoul Mézienne.
Voilà, c'est celui-là, si tu veux.
Ah, ben il va venir ce soir, c'est sûr. Tu voudrais parler avec lui ?
En réalité, je voudrais discuter avec lui, because que, si
pourquoi
tu veux, lui, il est algérien. Et toi, t'es franco-algérienne. Donc ça fait une différence.
C'est
et
quoi,
puis en plus de ça, tu es journaliste. Une journaliste, tu défends très bien. Il n'était pas facile tout le temps de parler de certaines choses. Il faut être diplomate, tu es diplomate. Alors moi, je voudrais être avec ce monsieur-là.
Avec Méziane.
Et puis avec lui, on pourrait être un peu plus libre, si tu veux, dans nos discussions.
Ça dépend, c'est pour parler de quoi ? Parce que moi, tu sais...
Je voudrais parler un petit peu de...
Je suis un peu dictateur, attention, hein.
Comment?
Je suis un peu dictateur. Il y a des, sujets, des fois. C'est pour ça que je me prends la tête avec lui, Méziane. Hein. Alors,
écoute,
tout ce qui est politique, avec Méziane, on s'adore.
Tu as une chose de
pas
bien,
politique.
C'est que, comme tu parles tout le temps, on n'a pas du tout l'occasion de beaucoup parler.
Alors, vas-y, dis-moi, tu voudrais parler de quoi avec Méziane?
Eh ben, je voudrais parler sur l'Algérie actuelle.
Ah, ben, si on pouvait éviter, ce serait bien. Non, je plaisante. Genre la langue de bois, tu sais. Non,
mais si tu veux, je comprends que si je t'adresse directement à toi, ça n'est pas facile toujours.
Ah si, tu peux. Moi, je n'ai pas de langue de bois, j'en parle. Je parle
non,
de tout.
Non, mais enfin, si tu veux, tu as les deux nationalités.
Oui, et alors ?
Donc, ben, c'est pas
facile. J'ai mon point de vue.
Pour l'un ou pour l'autre, c'est pas facile.
Je peux. Je peux pas prendre parti, mais je...
Il est algérien et moi, je suis français.
Oui, mais... Non, attends, je suis autant algérienne que lui. Ah, non. Je suis française, mais je suis algérienne aussi. Alors, je suis terrienne avant tout.
En fin de compte, ton cœur, par moment, il s'en va un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. C'est pas évident.
Mais il est partout, mon cœur.
Ben oui, je sais bien.
Il est partout. Des fois, il est en Guadeloupe, des fois, il est en Andalousie, des fois.
L'Andalousie, c'est un endroit qui lui plaît bien.
Ah, mais moi, j'adore l'Andalousie.
Je trouve que c'est... Qu'est-ce que tu fais encore en France, au lieu de t'en parler, d'aller dans ce beau pays qui est tranquille et où il y a de la lumière et tout ça.
C'est vrai. Non, mais j'adore la France aussi, sauf que la région parisienne, ça commence à me fatiguer.
Oh, bah oui, mais non, mais la région parisienne, c'est...
La France est un super beau pays que j'adore.
Descendre en Dordogne, descendre...
Voilà.
Là, c'est
vrai.
C'est couvert de beaux pays, la France.
Ah bah oui.
Si on compare la France à Paris, non.
Moi, j'ai passé des vacances merveilleuses en France.
C'est pas terrible si tu te balades pour le Porte de la Chapelle, c'est pas terrible.
Non, mais je parle pas de Porte de la Chapelle. Même sur les Champs-Élysées, j'aime pas trop, hein, à vrai dire.
Non, mais enfin, il n'y a pas de tente.
Ah oui, mais enfin, bon... Moi, Paris, ça me fatigue. Il y a trop de circulation, trop de voitures, trop
c'est
de...
Infernal.
Oh mon Dieu, trop de bruit. Les gens se font de la tête.
J'aimerais te dire une chose. Paris, en voiture, en métro, en bus, c'est pas possible. C'est plus possible.
Ah oui, non. Moi, j'ai pris dernièrement le métro pour aller dimanche au rassemblement de ce pauvre petit garçon, père son âme.
J'ai entendu parler de ça, oui.
Eh bien, je t'assure que... Oui, parce que circuler dans Paris, je me suis dit, je vais prendre le métro. Ah, il m'a... Personne sourit à personne. Moi, je regarde les gens. Je regarde, moi, parce que je regarde tout le temps. J'observe, je regarde les gens dans les yeux, je regarde tout le monde et tout. Les gens, ils se regardent pas. Ils sont tous. Alors là, j'ai découvert un autre monde. Hein. Ça me donne vraiment envie de partir en Andalousie. Tu sais quoi ?
Et avec les smartphones, maintenant, les
tous
gens, ils regardent plus personne, alors.
De tous âges confondus. Ils ont tous des trucs dans les oreilles, là.
Ouais,
les
ouais.
oreilles bouchées. Voilà. Et dans les mains, un téléphone. Ils sont là, tac, 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 tac. Il n'y a personne qui regarde personne. C'est avant on avait des livres, on avait mon Dieu, j'adore les livres. Non. Moi j'aime pas la société d'aujourd'hui.
Oui, mais c'est de toute façon t'aimes pas, mais c'est normal. Tu as été élevé dans un autre monde.
Ah oui, c'est vrai. Ah.
Et puis
oui.
maintenant si tu veux, enfin moi l'âge que j'ai maintenant, je me reconnais plus chez nous.
Tu reconnais plus ? C'est quoi chez nous ?
Chez nous, tu veux, c'est la France. Mais partout où tu vas, tout a changé.
Mais chez nous, moi c'est pas la France. Chez nous, c'est la Terre dans son entier.
Oui, mais la Terre, si
moi,
veux,
je me sens partout chez moi. Je me sens pas qu'en France.
Terre, si tu veux.
Pardon ?
Toi, t'es encore jeune, tu peux, tu t'en vas là-bas.
Non.
Mais moi, maintenant, je veux prendre des transports pour aller là-bas. Ça serait une purge.
Non, mais quand tu dis chez nous, ça devrait être pour tout le monde partout. C'est chez nous.
Oui, bah ça, de toute façon.
Il devrait pas y avoir de frontières. C'est horrible ces frontières.
Nous sommes dans un monde égoïste.
Bah oui, regarde les frontières, tout ça. Moi, tout ça, ça me tue. Tu vois, toi, t'as fait la guerre. T'as fait la guerre, mais tu arrives quand même à philosopher et être sorti de tout ça. Et ça, c'est très bien. Je pense que cette guerre, elle t'aura marqué, parce qu'on en avait parlé un soir, Jean-François, je me souviens.
Ben oui, parce que si tu veux, moi je remets ça un petit peu parce que j'ai des copains qui ont été descendus, hein, et puis descendus d'autres qui ont été extropiés, enfin disons que maintenant ils sont partis, enfin il y en a beaucoup qui sont partis, j'en ai encore quelques-uns que j'ai des contacts avec eux, et si tu veux, j'ai du mal à évacuer tout ça.
Alors, tu sais, je vais te dire une chose, on n'a pas le choix que d'évacuer, de relativiser, et de trouver les hommes sur cette terre stupide. Et pas seulement ceux qui nous concernent personnellement. Parce que cette guerre dont tu parles, tu me dis, tu as des amis, et ces amis sont dégoûtés, t'as employé un terme que j'ai pas retenu, là, je sais pas. Parce qu'ils ont vu des amis mourir devant eux. On est tous touchés par les guerres, tous, on est témoins de ces guerres. Moi, tu sais très bien mon histoire, puisque moi, je suis sans filtre, et je le dis, sans tabou. Bon, mon père est mort pendant cette guerre, puisqu'il a été tué, mais il était dans l'autre camp, puisqu'il est mort pour défendre son pays. Tu vois ce que je veux dire, pour l'indépendance. Toi, tu as fait la guerre, mais de l'autre côté, puisque tu défendais la France coloniale de l'époque, la colonisation.
Bah, écoute, je vais te dire une chose.
Pas la France, mais la France coloniale, c'est encore autre chose.
Et les gens de ma classe qui nous ont envoyés là-bas en AFM, qu'est-ce que c'était pour nous, un jeune Français comme moi, l'AFM, l'Algérie. L'Algérie, c'était quelque chose de l'autre côté de la Méditerranée, et puis c'était tout. Ouais. Ça n'avait pas d'importance pour nous. Ça a eu de l'importance le jour qu'on est arrivé là-bas, puis qu'on a vu ce qui se passait. Ben on a compris qu'il y avait un problème.
Ben voilà, tu vois. Et là, vous vous êtes posé des questions, bien sûr.
On s'est pas posé
existentielles.
C'est sûr de faire attention à ses plumes.
Oui, et se dire, excuse-moi Jean-François, et se dire, je pense que parmi vous, beaucoup, parce que moi j'ai vu des reportages sur des anciens appelés. Ils m'ont fait de la peine parce qu'ils sont partis pour rien. Ils le disent, il y en a les pauvres malheureux, ils sont tombés dans des traumatismes. Ils en pleurent encore aujourd'hui. Eh bien, et qui disaient, on nous a envoyés là-bas, mais défendre quoi ? Puisque la France, c'est la France ici, l'Hexagone, la France qu'on connaît. Il dit, mais on défend quoi? On est parti faire une guerre qui, pour nous, à nos yeux, eh bien, on a découvert un peuple, parce qu'on leur a dit, c'est la France, allez défendre la France. Ils arrivent et ils trouvent un peuple. Un peuple qui parle sa langue et qui a sa religion. Un peuple avec sa culture. Donc, ils n'ont rien compris. Ils se sont dit, mais dans quoi on nous a mis, quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de nous faire? Et j'ai vu ces reportages. C'est ça la réalité, la logique.
Et les gens qui étaient sur place, ils nous insultaient, ils nous traitaient de sales français, de mécréants, dans ton truc comme ça. Je me demandais ce qui arrivait, moi.
Ben, les gens étaient chez eux. Ils étaient colonisés.
Oui, mais moi, j'étais...
Toi, tu savais pas.
Vivre chez nous aussi.
Ben oui, mais t'arrives là-bas, tu peux pas être chez toi, chez les autres. Tu arrives, tu trouves un peuple qui a sa culture...
Oui,
qui a sa langue ou ses langues.
Non, enfin, maintenant, c'est bien beau de dire ça, mais à l'époque, moi j'ai appris à l'école que l'Algérie c'était français, puis après c'est tout.
Ben ouais, moi aussi on m'avait dit à l'école que mes ancêtres étaient gaulois, tu vois. Après j'ai découvert
c'était un mauvais prof, hein, faut pas déconner.
Tu vois, les profs ils étaient partout, ils étaient aussi au pouvoir.
Si tu veux, j'ai appris que en Algérie il y avait des départements français. Bon, je m'en souvenais même plus parce que en fin de compte ça m'intéressait pas forcément, tu vois. Moi ce qui m'intéressait c'est ce qu'il y avait autour de moi en France. Aller l'autre côté de la mer, ça m'intéressait pas, tu vois.
Ben oui, puis tu as vu les injustices qui se passaient. Tu as vu ce pauvre peuple qui était soumis.
Quand je suis arrivé là-bas, si tu veux, les colons, c'était pas fort, ils n'avaient pas des noms français. Moi, du côté, quand je suis arrivé, j'étais sur la frontière algéro-marocaine, donc ils s'appelaient Hernandez, Lopez, Gonzalez, des trucs comme ça. Il y avait beaucoup d'Espagnols.
Des Espagnols, des Italiens, des Maltais, des Corses.
Les Italiens, ils étaient du côté de la Tunisie. Parce que j'avais des copains qui étaient là-bas du côté de la Tunisie, en Kabylie, par là, dans ces coins-là. Là.
Oui.
Et en fin de compte, ils m'ont dit qu'il y avait beaucoup de ces fameux, comment que t'appelles ça, là, ceux qui foutaient le bazar, là, les patrons de ces trucs-là, là, comment... Alors, on vient de le dire, là.
Les colons, t'as dit
là, tout ça, c'était des... Pour les gérants, c'était eux.
Les colons
eux qui avaient des propriétés, si tu veux.
Les colons, tu parlais.
Les colons, enfin, si tu veux, sur des colons.
Je sais pas, enfin, je sais pas.
Ces gens-là, si tu veux, ils avaient des propriétés.
Ah ouais, mais c'est des propriétés qui appartenaient au peuple algérien de l'époque, qui a été spolié de sa terre. C'est ça, la colonisation. La colonisation, on vient pas dire bonjour, voilà, je viens en touriste, voilà, il n'y a pas de souci, je vais repartir chez moi. Non, je viens chez toi, je te prends tes terres.
Moi, j'avais 20 ans. Et en fin de compte, quand tu arrives là-bas avec des idées du maître d'école. Hein, alors moi, je suis... Alors, on nous envoie pour du maintien de l'ordre. Qu'est-ce qu'on va foutre du maintien de l'ordre là-bas? Enfin, ouais. Bon, on s'interroge. On arrive là-bas, on se fait tutoyer d'une certaine façon. On se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Bon, et puis on s'aperçoit qu'il y a des gars qui sont blessés, il y a des bazars, on a la trouille.
Bah oui.
Vous et puis le pire, c'est que t'as la trouille, c'est que quand t'as la trouille, quand tu te bases sur un ennemi qui est en face de toi, ça va. Mais là, les gens qui sont autour de toi, il faut te méfier d'eux. Tu peux prendre un coup de couteau, tu peux prendre un truc comme ça sans rien faire. Donc il faut toujours être sur ses gardes. C'est pour ça que j'aurais voulu discuter avec ton collègue.
Ouais, ouais. Mais Ziane, je sais pas s'il a grand chose à dire là-dessus. Non, je plaisante. Mais oui, j'espère qu'il va arriver ce soir. Tu quittes pas, Jean-François, je te reprends juste après. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence. L'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Ah bah oui, j'avais pas. Puis...
Ah bah, si tu branches pas ton casque, ah bah ça marchera pas.
Je branche pas, et moi je parle comme ça dans le vide, comme une folle. Jean-François, tu pars pas. D'accord, on attend Méziane pour vous mettre ensemble. D'accord. Ah dis donc, ça promet la soirée. Hein. 01 53 48 3000, Zora, elle s'appelle. Bonsoir Zora.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, bienvenue Zora. Tu nous appelles d'où Zora?
Alors, moi, j'habite Lille, mais on n'a pas Beurre FM sur Lille, donc je suis super contente quand je suis en déplacement sur Paris ou là, actuellement, sur Rouen.
Ouais.
On a, y a Beurre FM, donc je voulais
super.
En profiter pour passer un petit bonsoir.
Bah, écoute, il y a l'application,
que,
hein.
C'est ce que j'allais dire, l'application Beurre FM.
Exactement.
Voilà, non, tu télécharges.
Je l'écoute de temps en temps.
D'accord.
Je l'écoute de temps en temps. Et je voudrais réagir sur ce que disait Fatima.
Fatima, oui. Ben
je suis complètement d'accord avec elle. Et juste pour dire que, pareil, moi je suis pratiquante, je suis musulmane et pratiquante.
Oui, la Ibarek.
Dès qu'il y a besoin d'une information sur la religion, il faut aller la chercher auprès de personnes qui en sont sûres. C'est-à-dire celles qui lisent le Coran, qui le comprennent, qui arrivent à le traduire. Et non pas sur Internet, parce que sur Internet, il y a tout. Donc voilà, quoi. Et la religion, c'est propre à chacun.
C'est ça. C'est intime, hein. Très intime.
C'est intime.
C'est entre toi. Et surtout, l'islam, c'est voilà. Entre toi et ton créateur. Il n'y a pas d'intermédiaire.
Exactement. Exactement. Donc voilà, je voulais réagir sur ça. Et j'allais dire que je t'apprécie énormément.
Ah,
parce que tu es quelqu'un qui est ouvert d'esprit, tu as toujours le bon mot, le mot juste, tu as du caractère, et donc je suis toujours ravie. J'ai fait découvrir à mes sœurs Vanessa de Beurre FM.
Ah oui.
Au départ, ma sœur plaisantait, me disait non mais qu'est-ce que t'écoutes. Et finalement, elle s'y est prise, je l'ai prise au jeu.
Oui.
Et elle a la vie de Paris pour le coup.
Oui.
Et dès qu'elle peut, elle écoute.
Elle écoute maintenant. Elle écoute c'est formidable.
Exactement.
Ouais, elle s'appelle comment?
Donc, voilà. Myriam.
Myriam, gros bisous Myriam et bienvenue dans la famille Beurre FM.
Voilà.
Bah, écoute, je suis très touchée
avec
en tout
grand
cas.
Plaisir.
Vraiment.
Et dès que je peux écouter, j'écoute. C'est toujours enrichissant. Et le seul petit hic, c'est qu'on attend un peu au téléphone.
Aïe, c'est vrai, c'est
voilà,
vrai.
Juste ça,
que... Parce qu'il y a beaucoup de monde qui appelle, tu vois. C'est
qui est victime de ton succès.
C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Hein, victime exactement. Du. Voilà. Bah écoute, voilà. C'est le prix à payer. En tout cas, je suis très heureuse de t'entendre ce soir, Zora. Et j'aimerais tant que tu reviennes, vraiment, parce qu'on a des débats. Et j'aimerais que tu les partages avec nous aussi. C'est important.
Bah, écoute, avec grand plaisir. Je n'hésiterai pas dès que je peux.
D'accord. Bah, écoute, bienvenue en tout cas. Tu seras la bienvenue toujours.
Merci beaucoup en tout cas.
Merci beaucoup, Zora. Merci, merci infiniment. Je t'embrasse fort. Excellente soirée, Zora. Merci à Myriam aussi qu'on embrasse. Oh, ça fait plaisir. Voilà, on gagne des auditeurs et des auditrices. Voilà, c'est ça d'entrer dans le cœur des gens. Et je le fais pas exprès. Oh là là, parce que des fois, je dis des trucs, je dis oh là là. Peut-être ils vont, il y a des gens méfermes. Peut-être ils vont pas me comprendre. Des fois j'ai des coups de gueule. Des fois, qu'est-ce que tu veux, je te dis, allez, venez. Hein. Mais en tout cas, vous êtes dans mon cœur. Voilà. Et comme vous le savez, je suis vraie. C'est direct. Voilà. Et je ne sais pas me contrôler. Comme elle dit ma mère, l'effet kershak fait fomak. C'est-à-dire, ce qu'il y a dans ton ventre, il est dans ta bouche. Tu dis tout, toi. Ah oui. C'est comme ça, depuis que j'étais petite. Alors, 01 53 48 3000. On a qui que quoi dans où? On a Karim. Oula, j'ai eu du mal. Hein. Karim de Paris. Bonsoir, Karim.
Oui, allô, bonsoir.
Bonsoir, Karim. Comment vas-tu?
Ça va bien, merci beaucoup.
Ah ben écoute, tant mieux.
Moi, j'aimerais bien réagir sur l'islam. Qu'est-ce que vous dites, c'est vrai. Tout ce que vous dites, vous, c'est vrai. Mais j'aimerais bien, vous savez qu'il y a une nouvelle fête dans l'islam en Arabie Saoudite.
Quoi, une nouvelle? Une nouvelle quoi?
Une nouvelle, elle s'appelle, franchement, elle s'appelle Halloween. Ils ne veulent pas le Mouloud, mais ils veulent Halloween.
C'est où, ça?
Franchement, en Arabie Saoudite. Je veux dire, franchement,
ah bon,
vous allez rigoler. Bah, pour que les gens sachent qu'est-ce que vous dites, c'est vrai. Attention à l'islam, attention à les ennemis de l'islam qui se trouvent des musulmans, les ennemis de l'islam, eux, bon, ils donnent l'image comme quoi sont des musulmans, mais eux, c'est des ennemis de l'islam. Ils se trouvent en Europe, bon, chez nous en Algérie et tout ça, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, mais là-bas, ils ne bougeront pas. Là-bas, les gens, ils savent que c'est des menteurs, c'est des traîtres.
Et ça, ouh là là, tu ne vas pas aller avec le dos de la cuillère, hein?
Non, moi
en plus, tu fais des généralités. Peut-être que tout le monde n'est pas pareil, quand même.
Non, je n'étais pas.
Parce qu'en Arabie Saoudite, il y a aussi des gens comme partout, des gens bienveillants. Pourquoi? Hein?
Moi, si je dis les traites, dans l'histoire de l'islam, il y avait de la trahison au Médina. Il faut pas le prophète.
Toi, tu as parlé des wahhabistes, wahhabistes, c'est ça?
Oui,
il y a ça, il y a. Tu sais que c'est ces dernières années, j'entends parler. Il y a les comment on appelle ça? Les salafistes aussi, je crois.
Oui, les salafistes.
C'est des dernières années, hein, je crois que c'est un peu des sectes, tout ça. Moi, je connais l'islam. Allez, il y en a forbé ou hadamakan. Tu sais ce qu'on dit?
Oui.
On dit, mais mon atar forbé, orbea fa mouna. Eh ben, Vanessa atar forbé. Orbea Vanessa. Le reste, man atar forbé.
Non, non, qu'est-ce que vous dites? Franchement, je suis tout à fait d'accord. Arrache pourquoi? Je vous dis, non, on est déjà subis en Algérie, les koufars là, ils ont fait des ravages des années 90. Ils restent un petit peu sur une chaîne de Maralébia. Ils restent un petit peu quelques idées de prophètes. Ils se cachent là-bas. Ils se cachent. Dans une chaîne, il s'appelle le Maralébia ou AOLS. Il se cache là-bas. Il y en a un petit peu là-bas. Il reste pas beaucoup sur la région parisienne. Il reste un petit peu dans les mosquées. Tous ces traces de prophètes là. Qui, aujourd'hui.
Je connais pas tout ça.
Oui, mais il y en a. Je vous connaissez pas. Nous, on traîne dans les mosquées. On les connaît comme ça. On les voit. On sait leur vie, tout ça. Comment ils essaient, comment trahir le prophète. Il y a ça. La preuve aujourd'hui que l'Arabie Saoudite a annoncé avec une nouvelle fête. Il s'appelle Halloween. Halloween ou l'Arabie Saoudite.
Peut-être que Halloween, c'est pour les touristes, parce que l'Arabie Saoudite s'ouvre au tourisme, là.
Oui, mais elle s'ouvre au tourisme, mais vous dites, oui, je suis tout à fait d'accord. Je sais pas, je connais pas ce pays-là, je ne peux pas le connaître, la vérité. Si ils me diraient que le paradis est là-bas, moi, je n'ai pas besoin de leur paradis là-bas. Ils ne m'intéressent pas, même pas.
Ah ouais?
Le paradis se trouve chez nous, il y a des points. Il y a des gens qui n'ont rien à manger. Tu peux donner des 5000 euros là. Tu peux les donner aux pauvres ou les aller là-bas pour des mensonges et pour retourner chez vous pour rien. Rien. Il n'y a rien à gagner de là-bas. Juste à donner de l'argent ici, recevoir un missile le lendemain sur la tête. C'est tout. Il n'y a pas de solution. À mon avis, ça ne me regarde que moi. Ça me regarde que recevoir un missile sur la tête d'officiel. On donne 5000 euros, mais 3 mois après, on recevra un missile. Ou sinon, on va recevoir des nouvelles fêtes, des nouvelles. Un peu de tout ça. Moi, j'aimerais dire ça. J'aimerais bien dire autre chose. Parlons de la guerre. Moi, ça ne me regarde que moi. Qu'est-ce que vous dites, la vie à l'ancienne, tout ça. Je trouve aujourd'hui l'armée russe, elle fait tous les moyens pour la démocratie, pour la liberté qu'on veut, non.
C'est qui de qui tu parles? J'ai pas compris.
Moi, parlons de aujourd'hui des guerres là, des gens qui combattent pour la démocratie, pour la liberté, juste pour libre. Je sais pas, toutes les armées là qui se bagarrent dans le monde aujourd'hui. Il y a des pays qui se bagarrent pour la liberté à l'ancienne qu'on a besoin.
Mmh.
sais pas, après, je sais pas, en parlant de tout ça, ce que vous dites tout à l'heure, vous avez des portables, tout ça. Nous, on n'a pas besoin de cette liberté-là, de balle-là, qui nous ramène nulle part, n'importe quoi, tout ça. On a besoin de la liberté à l'ancienne, on a besoin d'ériger.
Est-ce que tu peux éteindre ta radio, le haut-parleur, s'il te plaît, Karim?
Moi, je suis dans une voiture. Oui.
Alors, c'est quoi la liberté à l'ancienne?
La liberté annoncelle, comme on a vécu avant, on n'a jamais eu de problème de ça, on n'a jamais vu tout ce qui se passe maintenant, tout ça, à l'ancienne, on était bien, on était heureux. On était bien, on n'a pas tous ces charlots, là, des terroristes, on n'a pas tous ces gens-là, on n'a pas des gens-là qui insultent, qui trahissent le prophète, qui trahissent l'islam, on n'a pas, on a, genre, les gens sont bien, les gens, genre, on vit en
famille. C'était Nia, Nia, Nia.
Oui, il y avait la famille.
Il y avait Nia, il y avait la famille, c'est vrai, c'est vrai.
Il y avait la famille, il y avait tout ça. Le problème, c'est pour ça que moi, je trouve... moi, je suis un enfant qui a été dans des pays de l'Est, qui a été à Moscou plusieurs fois et tout. Je vois les gens là-bas, ils vivent mieux que nous ici en Europe. Par rapport à l'Europe qu'on est aujourd'hui, il y a des gens qui ont encore en famille, qui ont à l'ancienne, la vie à l'ancienne et tout. Je trouve que c'est mieux. À mon avis, moi, ça m'engage.
Oui, je t'écoute.
Je trouve que c'est mieux. C'est mieux. Aujourd'hui, on accuse des gens comme quoi c'est des dictatures, mais là-bas, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils disent des gens dans les médias? C'est des mensonges.
Tu sais, les médias, hein, c'est... ça dépend. Hein.
Moi, je vais dire franchement, plusieurs fois, les deux Algériens, c'est un pays de dictature. Moi, j'ai jamais de gendarmes. Ils sont jamais venus chez moi, m'emmerder chez moi. Ils disent comme ça la dictature. Mais je vois pas la dictature aller où. Normal, les gens ils sont tranquilles, bien, ils sont chez eux. Il n'y a pas tout qu'un problème. Personne t'emmerde et tout ça.
Tu es d'où d'Algérie?
Moi, je suis de la Kabylie.
Oui, laquelle? Parce que c'est grand la Kabylie, hein.
Moi, je suis entre Tizi Ouzou et Bdjaïa au milieu de Bouira.
D'accord, tu es entre Tizi Ouzou et Bdjaïa. À la frontière. Tu sais que aujourd'hui, les gens de Bdjaïa, ils ne veulent pas qu'on dise la petite Kabylie. Hein. Parce que quand tu leur dis la grande Kabylie, la petite Kabylie, ils disent non, il n'y a pas la petite Kabylie. On n'est pas la petite Kabylie. Mais c'est mignon.
Non, c'est pas ça. C'est
non, c'est mignon. C'est une bonne guerre.
Il n'y a pas de carache, nous on est comme ça, enfin, tu demandes quelqu'un, tu dis d'où, il va dire moi je suis en Corse. L'autre il va dire moi
je suis. Ben oui, c'est mignon. Moi je trouve ça mignon, la vérité. Oui,
mais après c'est rien, ça. Ça, mais c'est l'Algérie, c'est l'Algérie.
Voilà, exactement.
Par contre, moi je suis d'accord, moi je suis pas d'accord pour les frontières, je veux qu'il y aura des frontières.
Tu veux des frontières?
Oui. Moi.
Pourquoi tu veux tu veux des frontières, c'est-à-dire dans le monde, tu veux des frontières?
Dans le monde, oui, dans le monde.
D'accord.
Genre, comme on dit, les frontières, chacun garde sa culture, chacun garde sa...
T'es comme Méziane. Méziane, elle adore la culture. Oui, la culture.
J'aime bien vivre à ma manière, moi je parle de l'Algérie, j'aime bien vivre comme on y est comme ça.
Tu sais, je vais te dire une chose, mon idée.
Famille,
hein.
On vit en famille.
Oui,
moi
oui.
j'allais au rond, pas comme ça, les gens ils viennent, ils me ramènent chez eux, je mange, je dors, ils me demandent rien du tout, ça je trouve c'est bien, non?
Ah non, moi je suis pour l'ouverture, mais toutes les frontières, c'est-à-dire pour moi, si j'avais un pouvoir sur cette terre, il y aurait plus de frontières. Déjà, ça mettrait déjà moins de pression sur les gens. Parce que regarde, écoute-moi bien. Tu m'écoutes, Karim? Regarde, oui. Les gens, ils ont envie. Tout le monde a envie de voir ce qui se passe ailleurs. Tu comprends? Tout le monde a envie. Et quand on est jeune, encore plus. On a envie de découvrir le monde. On a envie de voir comment ça se passe. Et aujourd'hui, avec Internet, les gens, ils voyagent davantage. Enfin, ils voyagent dans leur tête. Ils regardent, ils voient ce qui se passe ailleurs. Ils disent, ah ben moi aussi, j'aimerais bien connaître tel pays, telle chose, etc. Parce que chaque endroit sur Terre est différent. Par exemple, quand je suis partie aux Antilles, ben, il y a des fruits qui sont différents, qui poussent là-bas. Par exemple, ça s'appelle des mangues. On en trouve aujourd'hui, bon, ils viennent dans les frigos, etc. Mais j'ai vu des manguiers, j'ai vu des plantes, des fleurs, des choses qui n'existent pas en Europe, des cocotiers, tout ça. Tu vas en Andalousie, je parle d'Andalousie, eh bien, il y a des plantes, il y a des fleurs, il y a des fruits qu'il n'y a pas ailleurs. Tu vas, par exemple, dans d'autres pays, tu vas dans le fin fond de la France, par exemple, en Bourgogne, etc., ben, tu vas trouver des, j'oublie comment ça s'appelle, qui font les raisins là. Comment on appelle ça? les vas-y, dis-moi.
Les
vignes, voilà. Il me dit vignerons. Oh non, mais regarde le pochetron, vignerons. Des vignes, Anthony. Alors, des vignes, voilà. Alors, il y a des vignes. Tu vois, écoute-moi. Tu vas en Kabylie, en Algérie. Je parle de la Kabylie, par exemple. Il y a beaucoup d'oliviers. Et j'adore, je dis ça parce que j'adore l'huile d'olive de Kabylie. On m'en a ramené, qu'est-ce qu'elle est bonne. Donc, elle a un parfum qui est particulier. Quand tu l'achètes au supermarché, elle a pas ce goût. Mais quand, celle qu'on m'a ramenée de Kabylie, elle est vraiment... Rien que tu ouvres le bouchon, déjà, t'as, oh, mon Dieu, t'as l'odeur qui passe partout dans ton cerveau. Voilà. Etc. Donc, tu vois le monde, comment il est beau. Donc, ça veut dire que le monde, il est divers. Et que les gens ont envie de voyager. Alors, pourquoi on freine les gens? Regarde, ils traversent les mers. Samahli, écoute, après tu parles. Pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui meurent dans les mers? Pourquoi on les empêche de voyager? Il y a des gens, ils meurent par les voilà dans les mers, etc. Parce que parce qu'ils ont envie de voir ce qui se passe ailleurs. Ils ont envie de voir. Alors tout, ici en Europe, en France, surtout dans sur certaines chaînes télé là où il y a, j'appelle ça les la basse-cour, les poulaillers là, ça caquette à tout va. Ils te disent attends, oui, ils viennent chez nous, presque ils disent nous manger le pain de voilà. De nos émigrés, enfin bref, je te la passe, je la fais courte, mais je caricature, mais pas loin. Donc, ils sont pas contents, ils te disent, ils viennent chez nous, machin, etc. Oui, parce que, genre, tu sais, avec un mépris, genre, les gens qui sont de l'autre côté, ils viennent, ils sont dans une misère, Zamak, c'est des moins que rien, c'est des, tu vois ce que je veux dire. Donc, vraiment, dans un esprit, dans des propos arrogants et méprisants. Alors que non, t'en as, moi j'ai rencontré des jeunes, leurs pères, ils ont des entreprises en Algérie. Des entreprises. Ils sont héritiers d'entreprises, des grandes entreprises. Et ils viennent quand même. Ils te disent, quand tu parles avec eux, ils te disent parce que je voulais voyager. Tu comprends? Moi aussi, j'ai envie de voyager un petit peu. Voilà. Donc on m'empêche de voyager. Ça fait des années que j'attends. Je suis venue parce que je veux voyager. Je veux voir ce qui se passe ailleurs. Adéia, c'est des jeunes. Donc arrêtez de... Moi, j'ai envie de leur dire, mais arrêtez de voir les gens qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée comme des... Comme des crèves la dalle, des moins que rien. C'est pas vrai. Il y en a, ils vivent mieux que beaucoup ici. Sauf qu'ils ont, c'est des jeunes, comme tous les jeunes du monde entier, les jeunes français, ils voyagent, ils prennent leur passeport ou leur carte d'identité, ils vont au Canada, ils vont même en Maroc, en Tunisie, rien qu'avec la pièce d'identité. Voilà. Quand ils vont en Algérie, il faut le visa. Bon. Dès que c'est un autre problème, un autre sujet. Mais, je veux dire, ils voyagent avec leur pièce d'identité. Ils sont contents. Anthony, quand tu voyages avec ta pièce d'identité.
Passeport, pièce d'identité, ouais.
Voilà, et tu vas partout, tu as le droit d'aller.
Normal, oui.
Ouais, normal. Tu ne demandes pas de visa, tu vas là où tu vas, normal.
Bien sûr.
Ben voilà, tu vois, voilà, c'est un jeune de 20 ans, il aime voyager, il va partout, il voyage, voilà. Eh ben, nos jeunes de l'autre côté de la Méditerranée sont comme Anthony, ils ont envie aussi de voyager. Si on les empêche de voyager, c'est l'horreur, c'est la frustration. Voilà. Alors ici, ils sont dans le mépris certains en disant ouais, ils viennent, machin, etc. Et la plupart qui viennent de l'autre côté, ceux qui s'installent, ils travaillent. Et heureusement qu'on les a trouvés pendant le confinement. Voilà. Donc ça suffit avec ça. Ouais, j'ai raison ou pas, Karim?
Oui, mais je peux pas être. Oui, je peux être d'accord, pas d'accord. Moi, je vais dire pourquoi. Déjà d'une pour recevoir ces gens. On voit qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Aubervilliers, à Barbès, tout ça, ces gens-là et tout ça. On voit tout ces n'importe
quoi. Ben, faut pas regarder toujours le mauvais côté. T'as des tordus partout.
Oui, le problème.
Barbès.
Oui, le problème. Je dis pas les Algériens. Moi, je parle de l'Algérie, tant qu'Algérien. Les Algériens, ils n'ont pas besoin de la France. Ils n'ont pas besoin. Les Algériens sont bien chez eux. La vérité, chez nous, on est bien. Juste, les gens, ils pensent que c'est TF1. Ils regardent TF1, ils pensent que c'est vrai. La France, c'est TF1. Non, c'est pas comme ça. Mais aujourd'hui, moi, je trouve, aujourd'hui, moi, il faut que les Européens, là, il faut qu'ils nous aident à développer.
Non. Que chacun, il développe son truc tout seul. Pourquoi ils ont besoin des...
Oui,
t'as besoin de personne.
La technologie, on a besoin de la technologie.
Non,
la technologie. Pas venir chez nous, apprendre les richesses sans laisser la technologie. Il faut aider les gens avec les technologies.
C'est pas une question d'aide. C'est une question qu'il y a des échanges qui se font. Tu sais qu'il y a des échanges qui se font, hein. L'Algérie, c'est un pays qui est tout jeune encore, mais il y a des échanges avec l'Europe, avec la France, avec la Chine, avec la Russie, avec les États-Unis. Il y a beaucoup d'échanges qui se font avec l'Afrique du Nord, avec les pays du Maghreb.
Oui, mais un pays comme l'Algérie, un pays jeune comme l'Algérie de la dépendance de 65 ans, mais un pays comme ça, il faut l'aider au niveau de la technologie. Il faut un aide, un un aide pour l'Algérie.
Attends,
pour que les gens, à un moment, ils comprendront. À un moment, on aura des gens, on aura des ingénieurs, on aura des gens pour construire un pays. C'est pas comme ça, on construit pas. N'oubliez pas qu'en Algérie, il y a 20 ans de ça, il y a pratiquement 70% d'illettrés. On ne peut pas construire un pays avec des illettrés.
Ah, il n'y a pas d'illettrés en Algérie. Ah non, il faut arrêter avec oui, ça. Mais... Hein. Ah, il y avait 90% pendant la colonisation. Et depuis, oui. Il y a 99%, ils sont tous lettrés. Hein. Les gens qui ont moins de 60 ans, ils sont tous lettrés. Moi, je te le dis.
Ouais.
Ah oui, ils sont tous. Hein. Ah,
ouais.
Les universités, il y a les facs qu'il y a en Algérie, il n'y en a nulle part ailleurs. Partout. À chaque coin de rue, tu as une université. Ah non, il y a qu'à là, on pense ça.
Juste pour finir, pour dire à nos frères, à nos sœurs en France, faites attention. Et pour protéger l'islam, entre les mains des chacals. Des chacals, c'est vos frères. Et soi-disant, ils vous donnent une image.
De qui tu parles ?
C'est vos frères.
C'est qui les chacals ? C'est qui les chacals ? De quoi tu parles ?
Les chacals, là, qu'on voit, là, qui parlent, qui disent le mot le haram. Qui disent,
soit
des
autres, c'est haram. Ah oui, oh là là, c'est là, franchement.
Les haram, là. Nous, on a vu qu'en Algérie, on a connu l'islam. On n'a jamais connu l'islam, là. Jusqu'à les années 90, on a perdu l'islam. On a perdu l'islam, vraiment. Nous, en Algérie, les années 90, on a perdu l'islam. Mm. S'il n'y avait pas les deux bonhommes en Algérie qui sont protégés l'islam, c'est pas pour les féliciter ou pas. S'il n'y avait pas les deux généraux qui sont levés.
Alors, tu vas faire hurler Hada Ezzoul. Écoute. Karim.
Non, je veux dire, Karim,
attends deux minutes. Karim, écoute-moi. Karim, moi, tu me fais plaisir ce que tu dis, la vérité. Attends, écoute, hein. Ezzoul.
Allô.
Voilà. Tu as Ben Amé, ça, là. Tu as ton cousin.
Ouais.
Karim, il est avec toi, là.
Ah, voilà. Karim.
Il est très bien, Karim. Hein. Moi, c'est mon pote.
Non, ça va.
Ah, c'est mon pote, hein. Moi, Karim, ça y est.
Tu as tout faux. Karim, tu as tout faux.
Ah, ben voilà. Ben, attends, il a
zéro et double.
Il a le droit d'avoir son avis. Tu respectes un peu l'avis des gens ou quoi? C'est de la dictature avec toi. Toi, tu te plains. Tu dis, ouais, là-bas, il y a la dictature. C'est toi le dictateur.
Laisse Karim. Zéro et double zéro partout.
Est-ce que tu respectes Karim, son avis?
Moi, je respecte Karim, mais je respecte...
Alors arrête de le traiter de zéro.
Non, je ne le traite pas lui, je traite ce qu'il propose.
Non, c'est son droit.
Écoute-moi, Karim, tu m'entends ?
Oui.
Ouais, Karim, moi, je vais te dire un truc. Si tu vas en Algérie, que tu vois toute la corruption, tu vois les gens qui... tu vois les gens qui se sauvent avec les bateaux qui meurent dans la mer. Tu vois les gens qui roulent avec des milliards. Et t'en as qui crèvent la dalle. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Et tu te dis, pourquoi c'est comme ça?
T'as pris la leçon par cœur, hein. Dis donc, t'as un maître.
Pourquoi c'est comme ça? Il y a des milliardaires là-bas. Il y a des gens, ils n'ont même pas de quoi où dormir.
Arrête de crier. Dès qu'il parle de la politique, il y a Belnor. Vas-y, Karim, parle. Je l'ai mis en attente à Belnor. Vas-y.
Je vais lui répondre à Mziane. Moi, je viens de rentrer de l'Algérie avant-hier. Moi, je vais dire franchement Mziane. Il ne faut pas nier. Mziane, il est dark boy. Il connaît bien les choses. Il connaît bien. Mziane, les cafés en Algérie, le matin, de 8h jusqu'à 19h, ils sont remplis. Personne ne travaille. Personne ne veut travailler. Personne. Il y a du travail partout. Il y a du travail. Les gens, ils veulent pas. Les gens, ils sont là. Ils attendent. Donne-moi l'argent. Va faire demander l'État. Donne-moi l'argent. C'est tout. Les gens, ils ont dit pétrole. On est riche. Nous, on avait une, je sais pas comment t'expliquer. On est comme ça. Mais les gens qui veulent, pourquoi ils sont en France, on travaille. Pour 1300 euros, le mec, il se lève à 5h du matin, il travaille jusqu'à 17h. Pourquoi? Si on fuit là-bas, on peut pas gagner, par exemple, là-bas, on peut pas gagner les 50 euros là qu'on gagne ici. On peut les gagner par jour là-bas, si on veut travailler. On peut les gagner, je te jure, on peut gagner 400 euros par jour en Algérie si on veut travailler. Mais on veut pas. Les gens, ils se lèvent le matin, ils vont dans les cafés par la politique. Les gens, ils aiment la politique. Politiser, dommage, on est tous politisés. Mais les gens, ils parlent la politique. Au plus, moi, je les ai vus avec mes yeux. Les gens, ils veulent pas. Les gens, ils veulent pas, même pas sortir de la banque pour prendre des crédits. Il y a des crédits. Tu peux aller prendre des crédits. Puis, c'est vrai, il y a de la corruption. Même en France, il y a de la corruption. Je veux qu'on parle de la corruption. Même ici, moi, ça m'est arrivé, la corruption. J'ai donné de l'argent pour avoir du travail. Oui, c'est pas question. Même en Europe, il y a de la corruption. Mais en France, on la voit pas. Pourquoi les gens, ils se connaissent pas? L'Algérie, tellement c'est une famille, les gens ils parlent, les gens ils parlent, les gens ils parlent, mais ils ont tendance, malgré on parle, personne ne les écoute, ils s'en foutent. Mais il y a de la connexion partout dans le monde, il y a de la connexion.
Bravo. Hakim, Karim, je te mets en attente, ne pars pas, mais Zian aussi. Ne partez pas, Hakim aussi, hein, ça sera Hakim juste après. Ne partez pas, on a un son, on va le passer là tout de suite. Et juste après, on va accueillir. Alors, Karim, tu pars pas, hein, je te passerai avec Mesian tout à l'heure. Mais on a Hakim, juste après ce son, le papa de Yanis, ce petit garçon, vous savez, ce petit garçon qui a été fauché, ravi à la vie par cette conductrice. Et vous avez entendu hier l'histoire du papa qui nous a vraiment expliqué. J'ai encore découvert des choses comme vous hier. Ce soir, il est là. On va l'écouter. On est en train de le soutenir en ce moment. On le lâche pas. Khawa khawa. Allez, un petit son là tout de suite et on revient juste après. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence. L'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
01 53 48 3000. Vous êtes toujours sur Beurre FM. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Le standard affiche complet. Ben oui, comme disait tout à l'heure Fatima et Zora, voilà. Hein, n'est-ce pas? Voilà. Alors écoutez, écoutez.
Si elles sont contournées, notre époque est grisante, on voudrait se cacher sous un fond vert. Tout le monde n'est une star, arrêtez de mentir, on ne peut échapper. On nous a tous regardés grandir jusqu'à nos 25 ans. Comment y en a qui osent pas appeler ça une chance? Je m'occupe de mes affaires dans une minute, tout de suite pousse un travel. Je voudrais voir tout le monde sur la même photo. Je te parle pas d'un post Instagram et plutôt de livre d'histoire chez eux. Voilà, malgré que tu sois né au rêve, la tristesse par ambition, même toi du stress. Et fais gaffe aux gamins qui traversent. Quand j'étais type, les gendarmes c'était que des insectes. Aujourd'hui, il y a trop d'entre eux qui méritent des insultes. S'enrouler, c'est un choix.
Eh bien, oui, une mère voit son fils écrasé par une autre mère. C'est une chanson qui est dédiée à Yanis, ce petit garçon de 8 ans qui a été justement fauché ce jour-là par une mère. Bonsoir, Hakim. Bonsoir Hakim.
Bonsoir.
Bonsoir. Bienvenue Hakim.
Merci.
Je suis désolée. Je suis désolée. J'ai passé ce petit son juste avant. Et donc c'était pour rendre hommage à Yanis Layahmo. Et justement on va mettre en avant la participation de Momo Did Line 313 équipe du Maroc. Qui sont justement les créateurs, on va dire, et de cette très jolie chanson. Je l'ai pas écoutée jusqu'au bout. On va l'écouter. Moi, je la passerai dans la semaine. J'ai pas été jusqu'au bout de cette chanson parce que je voulais pas ajouter plus, disons, d'émotion, plus que ce que tu ressens en ce moment. Je sais que c'est tellement douloureux. En tous les cas, on peut que remercier ces chanteurs qui sont des rappeurs. Donc Momo Did, Line 313 et l'équipe du Maroc, voilà, qui rend hommage à ce petit ange, Hakim.
Eh bien oui, complètement. Comment rester insensible à cette attention? Ils sont, je crois, plus d'une vingtaine d'artistes. Et puis, spontanément, comme ça.
C'est magnifique.
Ils ont décidé de rendre un hommage à Yanis, qui est mort avec une telle injustice et dans une telle indifférence aussi par rapport à la justice. Aujourd'hui, on estime que Yanis, eh ben, il est mort et voilà, pas plus que ça, pas plus que ça. Pas besoin de condamner, pas besoin de mettre une peine de prison à celle qui l'a tué, alors qu'elle a tué d'une manière affreuse. Eh bien, je salue ce geste de ces artistes, qui sont des artistes complets. Et vraiment, ils méritent, en tout cas, ils ont tout mon respect. Donc j'espère, honnêtement, qu'ils réussiront tout ce qu'ils entreprennent. Ils méritent vraiment. Il y a des artistes comme ça de l'ombre, mais qui sont très connus. Hein.
Oui.
Et puis, spontanément, ils s'engagent pour telle ou telle cause. Ils sont formidables, ces gens-là.
Oui, c'est mon respect. Magnifique, en tout cas. En tout cas, tu pourras leur dire que leur chanson passera régulièrement sur l'antenne.
Ben écoute, je te remercie de leur part. Ça vaut le coup, ça vaut le coup, parce qu'il y a comme ça des artistes complets. Et puis, ça vaut le coup de les mettre en avant, de les mettre en lumière.
Et quel bel hommage.
Eux, ils sont modestes. Ils restent... Oui, complètement. Complètement. Eh bien, je vais... Ça me permet... Mais j'ai un retour. Je ne sais pas si on peut l'arrêter. Je ne sais plus.
Oui, alors, Hakim.
J'ai un écho. Oui.
Hakim, ce qu'on va faire, on va se poser un petit peu parce qu'on a une page de pub qui doit passer là tout de suite. Et après, je te donnerai l'antenne. Tu pourras t'exprimer et nous expliquer ce qui s'est passé ce jour où le cauchemar a commencé et ce qui va se passer demain. Ok, Hakim ?
Entendu.
À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Et on a Kalou, Fatima de Paris, Karim de Paris. Ne partez pas, il n'y a que Mesienne qui est partie, mais ça... Eh bien, on va récupérer notre ami Hakim, voilà, qui va nous raconter un petit peu le déroulé de toute cette sordide histoire. Hein. Leur vie s'est arrêtée le jour où le cauchemar a commencé, Hakim. Hakim, donc, l'antenne est à toi, nous t'écoutons.
Eh bien, quoi dire ?
Ouais, oui, je sais.
La journée du 5 février, qui aurait dû être une jolie journée, comme beaucoup de parents lambda, je vais dire, ils profitent du soleil. Il faisait quand même assez beau ce jour-là pour un mois de février. Mm-hmm. Eh bien, il y a mon épouse qui prend ses enfants, donc le bébé, la petite Sophia et Yannis, que Dieu son amour. Eh bien, décide d'aller dans un lac là, qui est pas loin, peut-être à 4 km de Perpignan, oui, 3-4 km. C'est le lac de Villeneuve-de-la-Raoult. Donc ils restent pas longtemps, ils restent aux abords du lac, ils s'amusent comme les enfants font. Et puis ils décident de partir. Et pour donc la voiture, il y a deux parkings. Il y a le grand parking côté lac et un petit parking. Ils sont amenés à traverser la route, donc de l'autre côté. Ça s'appelle le petit parking. Pour y avoir accès, pour y accéder, ils sont amenés à passer donc, sur le passage piéton. C'est le seul espace qui leur permet d'aller de l'autre côté de la route. Bien. Elle attend et il y a un véhicule qui vient de gauche à droite et qui s'arrête. Et donc, il commence à s'engager sur le passage piéton. Yannis est en tête, il les précède, peut-être de pas. Bon, c'est un petit enfant de 8 ans. Donc, de pas d'enfant. Et eux, ils sont bien engagés aussi, tout le groupe est sur le passage piéton. Donc, ils ont pratiquement dépassé la moitié du passage. Yannis a pratiquement fini de passer. Il lui reste aller trois pas d'enfant. Et puis un véhicule qui vient de droite vers la gauche à toute vitesse et qui fonce Yannis. Donc le choc est tellement violent que ça tape le pare-choc. C'est un véhicule de marque Citroën. Donc il est carré. Le pare-choc, on va dire, un peu. Voilà, c'est un Picasso, voilà, pour le citer. Et puis il tape le pare-choc et de suite, ça tape d'abord le pare-choc, ensuite le pare-brise, et il est projeté 6 mètres en avant, à peu près. Et puis, donc, elle a déjà pas freiné au passage du piéton, elle lui a coupé la priorité, cette conductrice. Et ensuite, eh bien, elle décide de s'enfuir. Pas s'arrêter, comme tout le monde aurait fait. Elle a bien vu qu'elle vient de taper le petit garçon.
Oui.
Mais elle prend la décision de s'enfuir. Donc, c'est la décision qui va coûter la vie à Yannis. Lui, il est par terre, blessé, vivant. Et puis, elle, pour s'enfuir, eh bien, elle l'écrase, tout simplement. Elle l'écrase avec la roue avant. Et elle traîne ensuite sur 22 mètres. 22 mètres plus loin, il ressort sous la roue arrière. Et quand elle a fini de le traîner, donc j'ai envie de dire ça comme ça, à savoir que tout le long, pendant les 22 mètres, il y a mon épouse qui court derrière le véhicule et qui lui supplie de freiner, qui lui dit qu'il y a Yannis en dessous. Donc je vous laisse imaginer le cri d'horreur de la mère à ce moment-là.
Oui.
Et de l'autre côté, sous le châssis de la voiture, Yanis, qui crie aussi à son tour. Mais lui, c'est parce qu'il est en train de sentir que son corps est broyé. Alors je vais expliquer ça sans trop mettre de détails, juste dire ce qui s'est passé. Donc tout le long, pendant les 22 mètres, il a les clavicules qui cassent. Les côtes, toutes les côtes, sans exception, cassent. Les poumons explosent, les deux. Les deux cols de fémur sont sectionnés. Il est scalpé. Mais il est vivant, il crie tout le temps. Hein, tout
incroyable, le temps. Incroyable.
Et elle, elle entend tout puisqu'il est sous le châssis de sa voiture. Elle freinera à aucun moment. Donc, quand elle passe sur lui avec la roue arrière, elle regarde, c'est ce qu'elle dit, ensuite sur ses positions, par le rétroviseur. Elle voit que l'enfant qu'elle a écrasé, eh bien, il continue de bouger les mains. Et elle dit, eh bien, c'est pas nécessaire que je m'arrête pour porter secours. Eh bien, elle s'enfuit. Elle le laisse agoniser. Et puis, elle s'en va. Donc, Yanis, eh bien, il décédera quelques heures plus tard de douleur. Il continue de gémir. Il y a sa mère qui est sur lui, donc qui le protège avec ce qu'elle a. Elle met la veste sur lui et elle essaie de protéger le corps du petit. Et donc cette conductrice, ce monstre, quoi, elle s'enfuit. Elle s'enfuit, elle va faire 600 mètres de plus. Elle va rentrer dans une petite passage, une route. Et puis là, elle téléphone à la gendarmerie. Elle appelle les gendarmes et elle leur dit qu'elle vient de taper un petit garçon. Et le gendarme lui demande est-ce qu'elle a appelé le secours, les pompiers. Elle dit non. Non, non. Et par contre, elle décide d'appeler son fils.
Ça, c'est fou, ça.
Donc, elle n'appelle pas les secours pour
c'est
Yanis,
incroyable.
Mais elle appelle son fils.
Ouais, non, mais...
Et donc, quand elle appelle son fils qui lui-même est gendarme. Eh bien... Les gendarmes, quand ils arriveront sur place, ils verront un monsieur qui est là avec elle, qui leur déclare qu'il est son fils, mais que lui-même est gendarme. Donc, elle a déjà appelé par le téléphone, elle a déjà prévenu, on sait qu'elle a vu ce qu'elle a fait, puisqu'elle dit qu'elle vient de taper un petit garçon, de le toucher précisément. Et donc, elle est emmenée en gendarmerie. Une heure après, elle est relâchée. Alors qu'elle venait tout simplement de tuer un petit enfant sur un passage piéton. Une heure après, elle repart de la gendarmerie avec son permis en poche, pas embêtée, voilà, comme si de rien n'était. Et donc à la gendarmerie, quand il relève aussi ses dépositions à chaud,
oui.
Donc elle dit oui, j'ai vu un petit garçon, quelqu'un de petite taille. Donc, elle commence à changer de version, mais elle reste encore dans... Donc, elle démontre qu'elle a identifié quand même la personne. Mmh. Elle dit aussi, sur cette déposition, qu'elle n'a pas eu le temps de freiner, qu'il avait tapé le pare-brise. On est bien d'accord que jusque-là, elle parle d'un petit garçon. Mmh. Ce qu'elle dit est vrai.
Oui.
Donc, elle s'en va chez elle. Eh bien, je ne vais pas trop m'éterniser sur la mort de Yanis, Allah yarhamou.
Ouais,
il est mort quand même avec un courage qu'on doit reconnaître énorme.
Il a résisté, il a résisté jusqu'au bout.
Quand
il s'est accroché.
Il s'est accroché.
Ouais.
Quand sa mère est sur lui, il n'a qu'une main en vérité qui bouge, la main gauche.
Oui.
Et sa mère, elle est en pleine crise. C'est tellement subite et avec tellement d'horreur qu'elle est en crise. Et lui, il arrive à passer sa main autour du cou de sa mère.
Oh, c'est pas possible.
Oh. Et en fait, il lui tapote la tête comme pour la rassurer. Oh. Il avait une force, Allah irhamou ce petit.
Incroyable.
Et pourtant, quand vous savez qu'il avait une plaie ouverte, en plus de tout ce que je vous ai cité, qui prend carrément toute la cuisse. Donc c'était énorme. Énorme, ce qu'il perdait comme ça. Mais il était là, il rassurait sa mère. Il gémissait de douleur, mais il ne pouvait plus parler. Alors on m'appelle, on me dit voilà, il vient d'y avoir un accident. La maman est à côté du petit, je comprenais pas trop ce qui arrivait. Elle me dit ben voilà, ça se passe à tel endroit. Bon, j'essaie d'être mesuré, j'essaie de le prendre avec calme. J'ai dit à cette dame qui m'appelle, ben écoutez, passez-moi mon épouse. Elle me dit elle arrivera pas à vous parler, passez-moi au moins mon fils. Et puis elle lui dit mon chéri, il y a ton papa au téléphone. Est-ce que tu parles avec ton papa? Et j'entends encore ce cri-là. Il est en train de gémir au téléphone. Et ça ne trompe pas, vous savez. Ça m'a glacé le sang à l'intérieur. Je sentais que c'était énorme, que c'était vraiment très grave.
Oui.
Et bien, je prends la route et j'arrive au lac de Villeneuve-de-la-Raho. À ce moment-là, il y a plein de camions de pompiers, les gendarmes sur place. Et je vois mon épouse en pleine crise. Les petites, elles étaient... Donc, il y avait une dame là qui les tenait. Et puis, il y avait un camion de pompiers. Je rentre dans le camion au hasard et puis en fait je rentre là aussi qu'il y a Yanis. Lui il était dans une bâche de pompiers. Vous savez
oui,
les bâches
oui,
de
oui, les bâches oui, blanches. Oui.
Voilà. Et je vais vers lui, je fais Yanis, c'est papa, ça va? Et il me répond, il trouve la force de me dire avec une petite voix, mais comme je dis à chaque fois très faible, il me dit ça va, ça va.
Oh, c'est incroyable.
Et je lui dis écoute, mon bébé, approche-toi. Approche-toi. Et en fait, il s'est accroché. Ça a été énorme. Vous savez, tout ce qui est cassé, il a
pris le poumon,
il a pleuré. Et ce petit qui s'accroche. Et juste au moment où je sors, parce que le docteur me dit, écoutez, c'est gravissime. Je me dis, bon, je ne vais pas les embêter, je sors. Au moment où je passe à la porte des pompiers, au moment aussi qu'ils referment, je les entends dire, Yanis, reste avec nous, reste avec nous, reste avec nous, Yanis, Yanis. En fait, ils venaient de faire un premier arrêt cardiaque. Donc le cœur s'arrête. Au bout d'un long moment, ils arriveront à faire repartir le cœur. Et ce qui est formidable, c'est que quand le cœur repart, alors qu'il n'a plus de poumons, alors qu'il aurait, il était censé ne plus pouvoir parler, il leur dit « J'aime Allah ».
C'est incroyable.
Trois fois, il leur répète « J'aime Allah ». Les pompiers, ils ne me l'ont pas dit de suite.
Oui.
Ils ont attendu longtemps pour me le dire. Ils m'ont dit, mais c'était énorme. Et ensuite...
C'est une manière shahed, Hakim. C'est une shahada, quelque part.
En tout cas...
C'est fou.
En tout cas, il a laissé un message. C'est formidable. Par trois mois, il leur déclare, j'aime Allah. Et ensuite, c'est la fin. Il ne se réveillera plus.
C'est incroyable.
En fait, il fera un deuxième arrêt cardiaque à l'hôpital. Mais comme ils le maintiennent, comment on appelle ça, ils le font dormir.
Artificiellement, le coma artificiel.
Le coma artificiel.
Oui.
Ben ça sera réellement ça, ces dernières paroles. Et ce petit, eh ben, il a fait preuve d'un courage phénoménal. Quand on voit de quel côté l'institution est lâche, c'est ça le vrai mot. Ce sont des lâches. Elle n'a jamais voulu reconnaître la vérité, la conductrice. Il y a une telle lâcheté autour d'elle parce que tout le monde sait que ses enfants, c'est des gendarmes. Et que moi, je peux me permettre de le dire puisque je le combats depuis février. Donc, je prends sur moi tout ce que j'ai dit. Ils acceptent qu'ils m'attaquent en diffamation puisqu'il n'y en a pas. Ça me permettrait aussi d'ouvrir le dossier. Bien, ses enfants sont gendarmes et je pense qu'il y a un conflit d'intérêt énorme puisqu'à partir du moment où elle apprend qu'il est décédé, elle change de version. Elle sera réentendue en avril. Et en avril, elle déclarera que c'est un oiseau qu'elle a tapé, une mouette, qui avait une boule de feu qui l'empêchait de voir. Qu'elle ne reconnaît pas le délit de fuite. Elle dit qu'elle n'a pas trouvé de place où se garer. Bizarrement, les voitures qui la gênaient. Alors qu'il y a les caméras qui sont témoins qu'il n'y avait aucune voiture. Donc elle part sur une espèce de mensonge préparé. Déjà, c'est pas normal qu'elle n'ait pas été mise en garde à vue le jour même. Elle est repartie chez elle. Elle est réentendue qu'au mois d'avril. Donc du 5 février, elle est réentendue ensuite que vers la période du 15 avril. Elle a eu tout le temps de préparer tous les mensonges qu'on lui connaît. Voilà jusqu'où elle va être lâche. Elle va dire aussi que c'est lui qui a déboulé. Comme s'il n'avait pas le droit de passer sur le passage
piéton. Ben oui.
Comme si c'était lui qui lui avait coupé la priorité à elle. On rentre dans une espèce de délire. Mais le pire, c'est que ce délire, il est soutenu par les gendarmes. C'est ça qui est affreux. Eh bien, ça, c'est la partie, si vous voulez, la plus soft, la plus hard à la raison. Alors, le premier procureur demande, je dis premier parce qu'il y aura deux procureurs dans cette histoire. Le premier procureur, ben lui, il demande si c'est au premier ou si c'est au deuxième choc que Yanis aurait succombé. On sait tous qu'au premier choc, il était vivable. Il était à terre, blessé, mais vivable. Et c'est quand elle écrase, et avec tout ce qu'elle lui... tout ce qui arrive, donc tout ce qu'elle lui casse en fait, hein, il est complètement détruit de l'intérieur, voire broyé. C'est ce qui le tue parce qu'il meurt par le poumon et non pas par la tête. Donc on sait tous que c'est au deuxième choc. Quand l'enquête est donnée aux gendarmes, les gendarmes font une enquête jusqu'au passage piéton. Il faut bien écouter parce que c'est très grave ce qui s'est passé. Donc quand je dis faut bien écouter, c'est-à-dire faut, quand je parle du passage piéton, l'enquête en réalité, il l'arrête au passage piéton. Le fait qu'elle l'ait écrasée, qu'elle ait traîné, et qu'elle ait écrasé encore une fois avec la roue arrière et qu'elle se soit enfuie, tout ça, c'est pas mis en évidence. C'est bizarre, hein. On parle quand même d'une enquête criminelle. Et puis ils disent au mois d'avril, ils disent à mon avocat, qui était sur place, donc pour appuyer mon épouse, et il y avait aussi un traducteur, ça aussi, parce qu'au départ, elle donnait sa version, et l'enquêteur, il écrivait autre chose. J'ai dû aller le voir et lui demander à ce qu'elle soit réentendue, parce qu'il y avait... ce qu'elle disait et ce que l'enquêteur écrivait, ça n'avait rien à voir, alors que c'est dépôt de plainte.
Ah bon ?
Donc, elle est réentendue. Oui, oui, complètement.
Et pourquoi un traducteur ?
Ben, parce que ma femme est... Elle vient d'Algérie.
Oui.
Donc, elle s'exprime très bien en français.
Oui, oui, oui.
Mais elle vient d'avoir le choc de son fils.
Ah oui, oui, là, tu perds toute notion.
Avec tout ce qu'elle a vécu jusqu'à 4 heures du matin, c'est déjà pas mal en émotion.
Oui.
Et puis, quand il lui pose la question, elle s'exprime très bien, il faut comprendre ce que je dis, parce qu'il lui pose la question, il lui dit, on est dans une zone 30. Il lui dit, pensez-vous que dans la zone 30, le véhicule roulait à cette vitesse? Elle répond, non. Elle roulait plus vite.
Oui.
Et lui, il marque, et lui, il écrit, l'enquêteur, oui, j'en ai l'intime conviction.
Ah bon?
Elle n'a jamais dit ça. Elle n'a jamais dit ça, j'étais à côté. Et ensuite... Et il repose une autre question. Où vous trouviez-vous au moment du choc? Ben, sur le passage du piéton. Le véhicule me laisse passer celui de gauche. J'ai commencé à avancer. Yanis était devant moi. Donc, elle répète l'histoire telle qu'on me le s'est passé. À savoir qu'il y a des témoins partout en plus.
D'accord.
Et lui, il écrit, je suis resté aux abords du lac et Yanis est parti en direction du passage piéton.
Oh là là.
C'est une histoire de fou.
Oulala.
Alors, comme on est, nous, sous le choc, c'est chaud, ça vient d'arriver. Il nous dit, bon, je ne vous embête pas plus, vous pouvez repartir. Il ne nous lit pas la déposition. On ne sait pas aussi. On a juste une envie, c'est de... On ne sait pas, le monde est à l'envers. On ne sait pas trop ce qui nous arrive. Et surtout que quand on arrive en gendarmerie, il nous dit, écoutez, le procureur, il requalifie le délit de fuite. Je dis, ça veut dire quoi? Pour que je comprenne, il me dit, ben, ça veut dire qu'il n'y a plus de délit de fuite, puisqu'elle aurait appelé les pompiers, les secours. En réalité, elle ne les a jamais appelés. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup.
Ah ouais, c'est énorme.
Alors, au bout de quelques jours, en fait, il me demande s'il peut garder le corps pour faire une autopsie. Et en même temps, pour déterminer la vitesse, puisqu'elle freine à aucun moment, la conductrice. À aucun moment elle ne freine, et pour déterminer la vitesse, ils ont besoin du corps.
Oui.
Donc, pour, par rapport au choc.
Oui, bien oui.
Et du véhicule. Donc, j'accepte le deal.
Bien sûr.
Mais je lui demande à ce qu'il me rende le corps vendredi pour que je puisse le mettre en terre, au moins le jour du jumeau.
Oui.
Donc, on est dimanche, dimanche matin, et il me rend le corps. Et quand je récupère le corps, là aussi, quelque chose d'incroyable, le jour où on l'enterre, c'est-à-dire vendredi, j'ai un ami qui passe pour aller... Il y a des gens, des voix qui veulent voir le lieu du choc, tout ça. Bon, il passe, et puis il assiste à une scène bizarre. Les gendarmes ont bloqué les routes,
et ils sont en train de faire la reconstitution sans nous.
Vous n'étiez pas informé.
Ma femme qui... Mais non, ils le font pendant qu'on enterre l'enfant.
On
va pas me dire que c'est le hasard du calendrier, ça aussi, vous voyez. Donc, voilà ce qui se passe.
Incroyable.
Eh bien, on se retrouve devant plusieurs petits problèmes dès le départ.
Ouais.
Et quand on me le dit, on me dit, écoute, Hakim, pendant que tu étais au cimetière, eh bien, j'étais en train de faire la reconstitution, à venir de la Raoul, les gendarmes. Ça commence à faire beaucoup. Entre-temps, j'ai dû aller le voir pour qu'il change cette disposition qui ne veut rien dire. Le fait qu'il me parle de délit de fuite qui n'en est plus un. Voilà, beaucoup de choses qui sont pas normales. Alors, je fais appel à un avocat et je lui dis, écoutez, il faut à tout prix que ma femme elle soit réentendue avec vous comme avoué et avec un traducteur. Comme ça, il peut pas dire oui, c'est elle qui a dit. Mm-hmm. Mais bon, moi, j'ai compris. Lui-même est choqué, puisque c'est une enquête criminelle. Donc, un gendarme qui se trompe en écrivant ce qu'il entend, c'est tout simplement pas possible. C'est une enquête criminelle. Il faut vraiment que ce soit bien fait. Donc, il me dit, bon, ben, j'irai, je regarde. Alors maintenant, je vous ramène au mois d'avril. Donc, ils sont réentendus. Et bien, il réentend en même temps la meurtrière. Et il en profite pour dire à mon avocat, de toute façon, l'enfant aurait succombé au premier choc, à dire d'experts, donc du médecin légiste, puisque le choc était tel au niveau du cerveau qu'il n'aurait pas pu survivre. En fait, le cerveau n'a rien du tout. Mais vraiment rien qui n'est pas touché. J'ai un retour, j'ai un gros écho, je ne sais pas si
vous l'avez. Est-ce qu'on peut voir l'écho, là ? Là, le boîtier. Là, de ce côté. Est-ce que tu peux les... Non, viens. Attends, Hakim. Anthony va le faire. Voilà, là. Faut que tu le fermes complètement. Il est éteint ? Parce qu'on a un écho, là. Il n'y a rien d'allumé chez toi, Hakim ? Pas de haut-parleur ?
En fait, j'ai le portable et je suis dans la voiture. Je parle avec eux, je parle de la voiture.
D'accord. Tu n'as pas de radio d'allumé ni rien ?
Non, du tout.
D'accord. Ok.
Bon, bien.
Nous, on t'entend bien. Il n'y a pas d'écho. Hein.
D'accord, mais j'ai l'impression. Je dois tout le temps attendre de finir de parler.
Ah oui, d'accord.
C'est pour ça que je perds du temps.
Ouais,
là,
j'en
ai plus. Ça va très bien. J'ai plus d'écho.
Voilà. Sinon, tu prends ton téléphone. Tu ne peux pas descendre de la voiture, prendre ton téléphone ?
En fait, moi, j'ai plus d'écho, là, ça va pour le moment.
Ah, bah, ça va, là.
S'il y a besoin, je le ferai.
D'accord, là, tu arrives. C'est parfait.
J'en étais au fait que. Donc, le.
Alors, donc, la maman. Voilà. Ah oui, la reconstitution. Tu en étais à la reconstitution.
Non, j'en étais au médecin légiste.
Légiste, après, oui.
Oui, qui aurait dit, soi-disant, que le choc était tel au niveau du cerveau qu'il n'aurait pas pu s'en sortir. Eh bien, du coup, il fait comprendre qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans les investigations. Alors que le premier procureur le demande. Bizarrement, ce procureur ne suit plus l'enquête. Et un deuxième procureur qui arrive, et lui, ça lui va très bien. Il n'a plus besoin de savoir ce qui s'est passé après. Ça aussi, c'est très grave. Puisqu'elle prend l'initiative de s'enfuir. Et pour s'enfuir, elle a Chef Yanis qui est par terre. Donc, arrêter et ne pas aller plus loin dans l'enquête-là, c'est tout simplement incroyable. On parle de la mort d'un enfant, d'un petit enfant qui a été sauvagement écrasé. Et bizarrement, on l'épargne au chauffeur. Et je reviens au mois d'avril. Donc, il dit à mon avocat, mais moi, je lui dis, c'est pas possible. J'étais à l'hôpital, ils lui ont fait l'encéphalocrame, le cerveau n'a rien du tout. Il me dit, allez-y, récupérez le dossier médical et on va les confronter. Quand j'arrive à l'hôpital, bizarrement, il y a une scellée administrative.
Une?
On m'empêche de prendre une scellée administrative. C'est-à-dire que le procureur ou celui qui est en charge d'enquête, mais là pour le coup c'est les magistrats, demande à ce que les dossiers soient bloqués pour l'enquête. Bien, je suis le père, je demande la levée de la scellée au mois d'avril.
Oui.
Il ne me la donnera que le 21 septembre, 4 jours avant le tribunal. Donc je peux pas remettre en cause la théorie, sachant qu'il n'y a rien au cerveau. Mm-hmm. Mais du coup, il ne me la donne pas. Et ce n'est pas faute de l'avoir réclamé. J'avais deux avocats sur Bordeaux, un avocat à Perpignan. Ils ont tous demandé le levé administratif. Ils ne me le donnent pas. Et là aussi, c'est très grave parce que le jour où on arrive au tribunal, on demande un complément d'enquête. Et je voulais débattre sur ça. Mm-hmm. Le 21 septembre, je suis allé. Et mm-hmm. j'ai relevé aussi que ça s'appelle le body scanner du crâne. Et dans le body scanner, il n'y a rien du tout. C'est avéré, c'est écrit, c'est tamponné. Donc on ne peut pas remettre en cause ce que les docteurs ont vu. Je relève, puisque le greffe ne vous laisse pas prendre de photos. Mm-hmm. Donc j'ai relevé cette partie et j'ai demandé à ce qu'elle soit mise dans le dossier pour pouvoir débattre le jour du tribunal, quelques jours après en vérité. Mm-hmm. Donc le jour du tribunal, on demande à ce qu'il y ait un complément d'enquête et mm-hmm. puis là, le procureur s'y oppose et dit que alors que nous, on va dans la continuité du médecin légiste. Le médecin légiste aussi demande à ce qu'il y ait plus d'investigation pour que lui puisse déterminer exactement la cause de la mort. Mm-hmm. Et pourtant, c'est un expert de chez eux.
Oui.
Et puis là aussi, il refuse. Bon, avant d'arriver jusqu'ici, je sais que c'est très long, je suis désolé, mais...
Non, mais c'est important. C'est important de comprendre, Hakim, parce qu'on ne sait pas tout ça. Je reçois énormément de messages, là, justement, les gens sont à l'écoute, hein, vraiment.
C'est vraiment très
choqué, long. Choqué, surtout, oui.
Parce que je vous ai parlé d'un excès de vitesse sur une zone 30.
Oui.
Et bizarrement, l'excès de vitesse aussi, ils estiment que ça n'est plus un, ou il est amoindri, elle est au double la vitesse, à dire d'expert.
C'est incroyable.
Donc, ça a été amoindri. Puisque eux disent que les panneaux qui sont là, ils sont vraiment là, les panneaux 30.
Mmh.
Si vous allez sur Justice et Vérité pour Yanis sur mon Facebook, Justice et Vérité pour Yanis Perpignan, il y a les photos. Si vous allez sur Twitter, Metlas Hakim, il y a tout le parcours qui a été retracé, tout est photographié.
Oui.
C'est, je crois qu'il y a 7 ou 8 panneaux, un ralentisseur et plusieurs passages piétons. Et bizarrement...
Et tu as refait le parcours d'ailleurs, parce que j'ai vu ta vidéo. Tu as eu ce courage, en tous les cas, de refaire le parcours. Et on voit bien le panneau. Super. Effectivement, on a vu le panneau 30.
C'est le panneau 30. Mais juste avant, il y a plein d'autres panneaux. Il y a
d'autres, oui.
Et la vue est bien dégagée.
Ouais.
Donc, ce qui se passe, c'est que là, précisément à cet endroit-là, pas dans les autres endroits, mais précisément à cet endroit-là, l'enquêteur nous dit que ici, là, juste ici, eh bien, c'est une départementale. Pas avant ni après, mais juste là. Donc, si c'est une départementale, bien qu'il y ait le panneau, eh bien, on repasse dans une zone 50. Voilà jusqu'où ils ont été.
D'accord. Oh là 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 là.
À prétextant qu'ils n'ont pas retrouvé le tampon du département. Voilà. Sur l'arrêté, donc je ne sais pas d'où ils ont sorti ça, ils ont innové, et voilà ce qu'ils nous ont vendu. Encore, si on rajoute à tout le reste, encore quelque chose de bizarre. Et puis, ce dossier médical qu'on ne veut pas me donner, alors que je suis le père, j'ai quand même le droit de l'avoir. Il n'y a pas de secret médical entre mon fils et moi.
Ben
je suis
oui.
quand même le tuteur légal, mais on pourra aller loin dans les détails.
Oui, les mineurs.
Et ça a été bloqué aussi. Surtout que c'est une offrande pour nous que ce que eux disent, c'est un faux. C'est très grave. Il y a des têtes qui peuvent tomber. Mais il faut attention de ne pas ouvrir le dossier pour pas qu'on en arrive à ça. Eh bien voilà, ça c'est encore quelque chose qui n'est pas normal. Ensuite, quand elle a entendu cette conductrice à... Cette meurtrière, en vérité. Quand il entend au mois d'avril, eh ben elle dit que finalement, elle n'a pas vu de petit garçon, que c'est lui qui a déboulé, et que, alors qu'elle a tapé, qu'il a tapé le pare-brise, qu'elle a bien dit au départ, qu'elle a bien téléphoné, au mois d'avril, eh ben elle décide que ce qu'a tapé le pare-brise, eh ben c'est un volatile, et qu'il y avait une grosse boule de feu, comme ça, d'un coup, qui lui tombait dans les yeux. Elle ne pouvait pas voir. Par contre, elle a su s'enfuir, écraser l'enfant et partir, ça l'a pas empêché. La fameuse boule de feu qui sort de nulle part.
Boule de feu, mais d'où sort quoi cette boule de feu?
Et puis ça leur va très bien aux enquêteurs. Ils la laissent à nouveau repartir chez elle libre, au mois d'avril.
C'est incroyable. C'est inouï, vraiment. vite. Et...
Alors que là, ça commence à avoir beaucoup de doutes sur cette enquête. On se met à essayer de savoir pourquoi elle est protégée à ce point.
En tout cas, ton récit est terrifiant, vraiment. Et chaque détail, c'est tellement précis, oui.
Et encore, je passe beaucoup de détails parce qu'il faut les affronter quand même.
Mon Dieu.
On vous prend pour... En vérité, on vous prend pour un accessoire. Il n'y a pas d'humanité. On ne parle plus de l'enfant. On parle juste de comment on peut la sauver à elle. Mais celui à qui on a arrêté sa vie, à l'âge de 8 ans, eh bien, ils n'en parlent pas. Ils ont mis un oiseau à la place, tu vois. C'est tellement plus facile avec un oiseau. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'ensuite, eh bien, elle est relâchée à nouveau. Et donc, l'enquête, au bout d'un mois et demi, elle est bouclée, bâclée. Et ensuite, c'est les vacances. Rentrée des vacances, c'est le 28 septembre. Ben, entre-temps, le 21 septembre, on me fait une levée de scellé qu'on doit refermer le jour même. C'est-à-dire, j'ai que quelques heures pour relever. À côté, tu as une greffe qui te laisse rien faire, qui te prend le portable. Donc, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas le droit d'avoir, moi, mes preuves. Donc, je relève quand même ce que je peux. Mm-hmm. Et le 28 septembre, on pensait qu'on aurait quand même une justice. On ne l'a pas eu le 5, elle n'a pas été mise en prison. Le mois d'avril, elle est encore relâchée. Beaucoup de monde m'ont dit, t'inquiète pas, les magistrats, ils vont faire le travail. Eh bien, le 28 avril, le magistrat demande 0 jour de prison pour cette meurtrière. On apprend entre-temps qu'elle a 2 fils et que ces 2 fils travaillent à la gendarmerie. L'enquête, elle a été faite par des gendarmes comme si c'était un vol de voiture. Un mois et demi d'enquête. Il y a un conflit d'intérêts puisque les 2 fils sont ici à Perpignan. Et la gendarmerie, pareil, dans le même département. En tout cas, le premier de ses fils, c'est sûr qu'il travaille ici. Puisqu'il est gendarme au Pertus. Et donc, à partir de là, il y a un conflit d'intérêts.
Hakim, on va aller très vite parce que à 55-56, on doit rendre l'antenne. Je voudrais vraiment, là, tout le monde est touché. Si tu savais le nombre de messages que je reçois. Hakim, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui va se passer demain? C'est quoi demain?
Eh bien, le procureur, je vais essayer de passer avec la moitié du temps qui reste.
Alors, vas-y,
donc,
rapidement.
Le procureur, donc mes avocats, chacun séparément, dans son cabinet, se rend compte qu'ils font un complément d'enquête. L'enquête n'a pas été faite après le passage piéton, c'est très très grave. On n'a pas donné aussi ce que demande le médecin légiste. En même temps, il y a aussi ce que nous, on a besoin de savoir et de mettre en avant. Donc chacun arrive de son côté. J'ai 3 avocats qui sont sur Paris, qui viennent en avion et qui demandent de chacun à son tour le complément, un complément d'enquête, ce qui aura amené l'enquête chez un juge d'instruction. Et le juge d'instruction, lui, est neutre. Et à partir de là, on peut mettre le doigt sur tout ce qui ne va pas. Le procureur s'y oppose de nouveau, et donc ils ont été obligés de juger l'affaire. Et ils ont ramené cette affaire à 2 mai. C'est-à-dire que le procureur demande 0 jour de prison et 18 mois de retrait de permis aménageable. Ce qui veut dire que la meurtrière, elle peut très bien bénéficier de 2 ans de sursis, c'est-à-dire 0 jour de prison et 6 mois de retrait de permis. Comme si vraiment elle avait tué un oiseau ou un chat ou un chien. Mais en tout cas, ça, voilà. Le risque demain, c'est que ce soit encore diminué. Et que finalement, là où tout le monde aurait dû aller en prison, eh ben, pour elle, il n'y a pas de prison. Voilà ce qui risque d'arriver demain. Ensuite, il y aura 11 jours. Et ces 11 jours, le procureur peut faire appel. Mais tout le monde a compris que le procureur, il a choisi son camp. Ce n'est pas le nôtre qu'il a choisi. Donc, il restera 11 jours d'appel. Eh bien, pendant ces 11 jours d'appel, il faudrait qu'il y ait une pression qui vienne de tous les côtés, partout, pour qu'enfin, il se réveille. Et qu'enfin, il nous donne ce qui a marqué sur le code pénal. Pas sur le...
Toi, tu demandes la justice, c'est tout. Voilà. Enfin.
La justice, depuis le moment où j'ai vu que l'opération qui était faite quand ils font le PV, c'était de mettre tous les atouts du côté de la meurtrière et à la limite de rendre presque responsable ma femme. Comme si elle avait rien à faire sur le passage piéton. Voilà ce que l'on vit, nous, depuis.
C'est incroyable. On dit toujours aux enfants de passer au passage piéton.
Voilà, alors.
Passage, voilà. Hein, vous êtes en sécurité, ben non, ben oui. Non, passage piéton, pas forcément. Sécurité. Voilà. Terrible. Terrifiante histoire. Tu sais que je reçois beaucoup, beaucoup de messages. Ça. La Hakim, tout le monde te soutient. Vraiment, énormément de messages je reçois. Et tout le monde est avec toi. Tu as touché énormément de monde ce soir.
Vraiment. Je voulais juste passer un petit message vite fait.
Vas-y,
Hakim. Une fois, je parlais avec une personne et puis quelqu'un m'a dit spontanément, écoute, nous, on peut t'organiser un rassemblement à Paris. Ça m'a fait chaud au cœur, ça s'est très bien passé. Est-ce que des auditeurs de toutes les villes, à un moment donné, peuvent rentrer en contact avec moi par le biais de TikTok ou même par ton biais, j'espère, peut-être, je sais pas.
Voilà, vanessa@beurrefm.net, écrivez-moi, vanessa@beurrefm.net, et je vous donnerai les coordonnées, enfin, tous les liens de Hakim.
Hein. Donc, le but réel, parce que ce petit, c'est l'enfant de tout le monde.
Mais
il
oui,
a rien fait
pour mais oui, dire. Mais oui, c'est notre enfant.
Il a été.
Hugara, ça s'appelle Hugara.
C'est pire, elle s'est enfuie. Elle est libre de retuer encore. C'est ça qui est grave. La justice là-dessus, ils nous la doivent. Moi, je la réclame depuis le début. Je ne lâcherai pas la
peine. Toi, tu demandes la justice.
Si à un moment
moi,
donné,
je...
tout le monde se met d'accord. Si à un moment donné, tout le monde se met d'accord de sortir et faire des rassemblements dans toutes les villes. Ce matin, j'ai eu l'appel de l'Élysée. Parce que ça commence à monter là-haut. Il y a même des politiques qui ont pris l'affaire en
D'accord.
Appel.
Donc, on t'a appelé de l'Élysée. Qu'est-ce qu'on t'a
je
dit?
Je fais un appel à tous les citoyens.
Oui.
S'il vous plaît. Si un jour on se met d'accord, on a 11 jours après le 9. On se met d'accord le plus vite possible pour sortir en masse. Et toujours dans le respect de la loi, mais pour dire non, c'est pas possible, on la connaît cette histoire, on a compris, on peut pas accepter ça. C'est pas ça la loi. Et là, peut-être que ça remettra en cause, il y aura peut-être un dépaysement. Celui qui sait ce que c'est comprendra. Il y a le politique de ce matin, peut-être qu'il sera obligé de faire quelque chose. En attendant, ça ne leur plaît pas, puisqu'ils voient que cette affaire elle est remontée en surface et qu'elle est tellement terrible. Voilà,
c'est en même temps, tu le fais pour que plus jamais, pour d'autres enfants, plus jamais, comme tu me l'as dit.
Complètement,
comme tu me l'as dit, Hakim. Oui, je sais.
Complètement,
je sais.
Le
quel courage.
Revivre, mais la justice.
Oui. Hakim, de voilà. Tout cœur avec toi, on arrive à la fin de l'émission. Tu peux revenir, tu rappelles, tu es chez toi, vraiment.
Merci,
on reste en contact, Hakim, on est de tout cœur avec toi. Entendu. Je t'embrasse, j'embrasse ta petite famille, ta femme. Courage, courage.
Merci.
À bientôt, Hakim.
Et un grand merci aussi à Paris. Vous avez été formidables. Et tous ceux qui sont venus de toutes les villes. Vraiment un grand merci.
Merci, Hakim, on est obligé.
J'espère que s'il y a un autre rassemblement, cette fois, n'ayez pas peur de venir.
Tout le monde viendra.
Quelques heures suffisent pour que le reste de la France.
Mais oui.
Il faut le faire.
Mais
faut
oui,
le faire.
Je suis d'accord avec toi. On lancera l'appel, Hakim. À très bientôt, Hakim. Terminé pour ce soir, chers amis. Alors, Hakim, il le dit pas. Il est plein d'humilité. Il dort plus. Hein. Il est vraiment fracassé. Sa femme, je vous parle même pas. Je l'ai vu dimanche, mais elle le regarde dans le vide. Vraiment, moi, j'ai pas dormi hein, jusqu'à 5h du matin, hein, dimanche soir. Donc, il a besoin aussi. Il le dit pas, mais moi, je le sais. Je suis en contact avec des proches de Hakim, autour de lui, des amis, etc. Donc, il paye des avocats. Vous avez entendu, ça coûte très cher. Donc, tout ce qui lui tombe sur la tête, le chagrin, la détresse, le hbouba, kbira, tout ce qui lui tombe sur la tête, il est fracassé. Et en plus, eh bien, faut payer aussi la justice. Parce que de l'autre côté, c'est du lourd, quoi. Enfin, ils ont des avocats et tout. Mais lui, Hakim, comment on fait? Eh ben, Khayna Hada, c'est notre frère, donc on va l'aider. Mobilisez-vous. Moi, je n'ai cessé de mettre sur mes liens, mes comptes Facebook, le lien de PayPal. Donc, par PayPal, n'allez pas sur les litchis, tout ça. Laissez tomber. Ça bloque et tout, c'est n'importe quoi. Allez sur PayPal. Voilà. Donc j'ai mis le lien PayPal de Hakim. Il faut qu'on l'aide, hein. Faites-le, hein. Voilà, nous on l'a fait, mes amis autour de moi, tout le monde le fait. Vraiment, chacun mette quelque chose. On va soutenir Hakim dans son combat pour la justice, tout simplement, pour la vérité et pour Yanis, Allah yarhamo, yusali, pour pas qu'il soit Yanis, miskin dem diallo, qu'il soit pas mort pour rien. Vraiment, qu'il sente qu'il y a une solidarité. Voilà, communauté de terriens, je dis pas d'origine, mais de terriens où on l'est pas. Voilà, c'est terminé, c'est ça. Ok, désolé. Eh bien, je vous laisse, chers amis, avec beaucoup d'émotion. Merci, Anthony. Je vous souhaite, écoutez, bonne nuit, tout simplement, voilà. Et puis, je vous donne rendez-vous demain. Demain, 11h déjà pour vos petites annonces et demain soir pour Confidence. Allez, belle nuit à vous, à demain, je vous aime, bye.
Retrouvez Confidence tous les jours de 21h à 23h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.